Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Vous allez vivre avec Arnaud, 55 ans, un épisode haut en couleurs, riche en rebondissements. Vivant dans l'Est de la France, Arnaud a déjà eu 1000 vies. 2 mariages, 4 enfants, 2 divorces, une nouvelle conjointe et de multiples expériences. Des souvenirs forts qui ont marqué son enfance et son adolescence, dont une amitié avec un copain de classe avec qui il va vivre des moments d'intimité très forts à la découverte de leur sexualité. Arnaud expérimente alors pour plus tard, lorsqu'il aura des conquêtes féminines. Un mariage, puis un deuxième, un divorce, puis un deuxième, qui ont amené leur lot de frustrations et de difficultés, se sont succédés dans la vie de Arnaud. En parallèle, des pulsions qu'il soulage dans des saunas. D'ailleurs, Arnaud vous donne quelques conseils pour ne pas vous faire prendre pendant vos éventuelles escapades adultères. Plus sérieusement, ces pulsions, Arnaud essaie de les combattre et les gommer à coups de thérapie, afin de chasser ses mauvaises pensées en lui. C'est après son deuxième divorce que Arnaud va se réinventer, va enfin accepter que les hommes l'attirent aussi, qu'il a envie et besoin de vivre cette sexualité. Il se définit comme sexué et aime l'idée de partager une sexualité décomplexée et libre. Aujourd'hui en couple avec une femme dont il est très amoureux, tout aussi libéré que lui, ils explorent ensemble de nouveaux horizons. Le couple libre, le club libertin, le club naturiste comme le Cap d'Agde. Bref, Arnaud n'a pas fini de vous surprendre pendant cet épisode. Je vous souhaite une excellente écoute. Coucou Arnaud.
Coucou.
Arnaud arrive fraîchement de l'Est, de la France. Arnaud, tu as 55 ans. Arnaud, tu connais le podcast ?
Oui.
On a un peu échangé par mail. Alors, ce qui est très drôle pour, enfin, pour la petite blague, c'est que tu avais posé ta candidature en 2022.
C'est ça.
Et tu fais partie des gens qui étaient tombés dans les spams. Et je t'ai répondu 2 ans après. Et tu as répondu trop sympa. Hé, hey, salut, ça va ? Parce qu'il y en a qui ont ghosté, forcément, parce que un peu vexant. Alors que vraiment, désolé pour ceux... à qui c'est arrivé. Et toi, très sympa, du tac au tac. Et donc, on a calé notre entrevue aujourd'hui. Arnaud, je vais te poser la question que tu connais. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Alors, en réalité, j'en ai 2.
Ouais. T'arrives à les dater ?
Ouais. Le premier, je le date de l'école primaire, où je me souviens, j'étais amoureux de 2 copines qui s'appelaient Martine et Nathalie.
Générationnel,
je ne peux pas faire mieux.
Martine et Nat.
C'est ça. Et j'avais eu un petit problème de santé parce que pendant toute ma scolarité, j'ai été souvent plâtré des jambes.
Okay.
Parce que j'avais un petit problème qui est résolu maintenant. Et elle restait à la récréation pour s'occuper de moi. Et du coup, j'en étais follement amoureux. Et mon souvenir, c'est que je me souviens encore... rêver de me frotter à elle.
Ok.
Mais de me frotter. Et alors, je me frottais. Dans mon souvenir, je me frottais. Je savais pas à cette époque-là comment ça se passait.
Bien sûr. C'était de l'affection un peu intense, quoi.
Ah, c'était chaud, chaud. C'était chaud, chaud.
T'es quoi, t'es en primaire ?
Ouais, je suis en primaire. Okay. Je suis en primaire. Et je me souviens que ça me générait mais des picotements partout.
Ouais, de la chaleur, quoi.
Ah, ouais, c'est ça. Okay. C'est ça.
Et ton deuxième souvenir ?
Alors, mon deuxième souvenir, c'est en 6e.
Ouais.
Pour des raisons, j'étais dans une grande ville parce que mes parents venaient de se séparer et du coup, ma mère était partie à 500 km de chez nous.
Ah oui, séparation.
C'est genre, si tu veux pas ce que je dis, je pars à 500 km avec les gosses sous le bras. Et donc, j'avais atterri dans une école privée parce que ça s'était très mal passé dans la première école. Mmh. Et mon premier cours de sport, de piscine, on se retrouve dans un vestiaire. Et là, il y a un garçon qui dit « Allez, on n'a qu'à se la montrer. » Dans une école catholique.
Ça fait beaucoup de choses quand même pour un petit garçon.
Et là, 5 minutes après, on était tous le sexe à l'air.
Okay.
Et j'ai vu les sexes commencer à se dresser les uns après les autres.
Ah oui.
Et qu'est-ce que j'ai aimé la natation depuis ce moment-là. C'est d'ailleurs au baccalauréat, ça a été, mais j'ai eu, je crois, 18, alors que j'étais pas une grosse bête de sport. Mais après, j'ai toujours nagé avec application.
Quand tu vois Florent Manaudou, tu comprends.
Ah oui, oh bah, surtout lui, surtout pour d'autres raisons.
Il est incroyable.
Mais oui, et donc je me suis mis à attendre après le jour de la piscine,
ouais.
Parce qu'on a recommencé après tout le trimestre.
Ah, c'était
Ah, mais oui, c'est ça. C'était le rendez-vous, c'était hyper excitant. Et surtout qu'il y avait les bonnes sœurs dans la salle d'à côté qui nous demandaient de nous dépêcher.
Donc, l'interdit en plus.
C'est ça. Et je me souviens que ça coïncidait aussi avec mes premières érections la nuit.
J'allais te demander, est-ce que toi, t'en étais où dans ta puberté à ce moment-là? Parce que ça aurait pu te traumatiser, on est d'accord.
Et ben, je me souviens que je regardais ça intensément avec une lampe de poche sous mes draps.
La tienne.
Ouais. Et je me disais, mais c'est bizarre, ça devient tout dur et c'est agréable. Et j'avais pas compris à quoi ça servait d'ailleurs. Je savais pas.
On t'en avait parlé à la maison un petit peu ?
Non, parce que ma mère l'avait évoqué, parce que ma mère était sage-femme.
Ah oui.
Était très libérée.
Donc un rapport au corps en plus.
Donc, elle m'avait expliqué l'histoire de la petite graine, on se serre fort, mais pas plus. Pas plus, donc j'avais des bouts d'indices.
Et tu n'avais pas une figure paternelle ou ton père qui pouvait t'en parler ?
Alors, non. Enfin, alors après, parce que mon père, à 11 ans, ça ne s'est pas bien passé avec ma mère. Et du coup, j'ai décidé d'aller vivre chez mon père en embarquant mon grand frère.
Ah d'accord.
Et c'est mon père qui nous a élevés.
Donc après la séparation, ouais. T'as fait un peu avec ta mère et après t'es parti avec ton père.
C'est ça. Et mon père nous a élevés. Donc il était une figure paternelle, maternelle, etc. Mais ça, c'est des sujets sur... J'ai essayé de réfléchir. Est-ce qu'on avait déjà parlé sexe ?
Mmh.
Ben jamais.
Et avec ton frère, ton grand frère ?
Alors mon grand frère... Alors, j'ai un grand frère qui est... Tous les deux, on est un peu la tête et les jambes. C'est-à-dire qu'il a toujours été mon grand frère, celui qui me protégeait.
D'accord.
Je me souviens, si on m'embêtait dans la cour de la récré, il venait prendre les coups à ma place ou alors il me protégeait.
C'est... Belle solidarité fraternelle.
C'est ça. Par contre, dès qu'il fallait prendre des décisions, il se défaussait sur moi. Vas-y, tu sais mieux que moi.
D'accord. Donc vous n'aviez pas ce rapport-là de transmission ou de...
Non.
Il aurait pu te parler de tout ça.
Non. L'apprentissage, je l'ai fait dans le dur.
À la force du poignet, si je puis me permettre.
Oui, alors... En fait, mon apprentissage ici, j'ai quand même eu deux splendides rencontres. C'est parce que ma mère, pour nous emmener en vacances, nos relations étaient compliquées parce que on s'était quand même cassé de chez elle. Quoi. Elle était en pleine dépression.
Oui. Puis c'est une époque où c'est moins facile. Enfin, tu vois qu'un père ait la garde dans ces années-là, c'était les années 80 ?
Ouais, c'est ça, 79.
Ouais, c'était pas les mêmes choses qu'aujourd'hui.
Alors, j'ai pas de diagnostic précis, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, on la diagnostiquerait bipolaire.
Ta maman ?
Ouais. Ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, c'est une date un peu clé parce que c'est
aujourd'hui, là ?
C'est pour ça que j'ai choisi la journée d'aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Elle est née un 2 avril.
Ok.
Et donc, elle est décédée il y a 20 ans. Donc là, ça, c'est des choses que je saurais plus. C'est des choses que j'aurais pu. Elle avait décidé un truc, c'est-à-dire... Elle s'était fait embaucher comme infirmière de colonie de vacances. Et en échange de son salaire, on avait un séjour de 3 semaines. À l'époque, ça coûtait un bras.
Oui, bien sûr.
J'ai vécu 3 fois 3 semaines de colo.
Ok, donc tes étés de collège.
Ouais. Et notamment, c'est des colos sur lesquels soit il y avait des gens qui avaient de l'argent, mais c'était rare, ceux dont les parents pouvaient casquer 3 semaines de vacances, soit il y avait les gens des huppes. Et je me souviens qu'il y avait des petites voyoutes de Châteauroux qui m'ont pris en main. Qui m'ont attrapé dans un coin. On avait un peu sympathisé et elle m'avait dit « Oh, au fait, viens voir, est-ce que tu sais embrasser avec la langue ?»
Ah oui, donc toi, tu débarques, tu...
Je débarque et là, je me prends un cours de roulage de pelle.
Par ces petites frappes de Châteauroux.
J'aime la zup de Châteauroux pour ça. et vraiment, elles se sont appliquées jusqu'à ce que la technique soit bonne.
Et pourquoi toi ?
Je sais pas, je devais avoir une tranche de faux petits anges.
Ok.
Genre, le mec mal dégrossi.
Ouais, elle risquait pas grand chose, quoi.
Elle risquait pas grand chose, mais quand même avec un potentiel de coquinerie suffisant.
Bah, ils ont décelé. Ok, donc c'est du coup, tu as un apprentissage en colo, première colo, bam, roulage de pelle.
C'est ça, quatrième. C'est même aller plus loin.
Quatrième, ok.
C'est même aller plus loin parce que. Les dernières nuits, parce que la colonie de vacances, il y avait un grand espace pour les garçons, un grand espace pour les filles. Et comme il y avait plus de place, il y avait plus de garçons que de filles, il y avait une chambre de garçons dans l'espace filles.
Waouh. Ça, c'était le Graal.
C'est ça. Et ce qui fait que j'ai pu avoir, dans la dernière nuit, une nuit avec une fille dans un lit.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
D'abord, on s'est roulé des pelles. Ensuite, j'ai découvert son corps.
T'avais peaufiné la technique.
Alors ça, j'étais super au point. Mais je me souviens encore avec émoi de sa poitrine.
Et t'as quoi? T'as 14 ans, 13-14
ouais,
ans.
Wow. C'est ça. Et je me souviens, j'avais appris en biologie qu'il fallait pas niquer entre le 11e et 15-16e jour.
Des règles, ouais, des cycles.
C'est ça. Et du coup, je sentais que ça commençait à s'approcher du bas, parce qu'on s'est retrouvés,
ouais.
On s'est retrouvés au bout d'une heure, une heure et demie, nus, et à commencer à se caresser. Et
ça
à
fait
dire...
beaucoup, hein.
Est-ce qu'on le fait? Et moi, en bon petit scientifique, donne-moi ta dernière règle, ta dernière date de règle.
Mais trop mignon.
C'est ça.
Je vais compter sur mes doigts.
Et j'ai dit, c'est bon, et j'ai dû tenir, allez, un aller-retour. Même, peut-être même pas.
Allez, pour la gloire, un
allez,
aller-retour.
Allez, ah ouais. C'est ça.
Sans et préservatif.
Ah là... oh bah ouais. Ça s'est très bien passé jusque-là.
Ouais.
Et...
ça s'est très bien passé, ça s'est passé.
C'est ça. Et là, on a découvert, en fait, on avait dû faire du bruit, etc. Et il y a un moniteur qui a débarqué dans la chambre.
Ouais.
Et qui a dû dormir, du coup, à la porte d'entrée de ma chambre pour être sûr que. Parce que moi, j'étais prêt à repartir. Donc voilà. Donc voilà, mes allées de colonies de vacances.
Formation incroyable. Ces étés-là, tu les passes avec, comme tu dis, 3 semaines de vacances qui, j'imagine, vont remplir tes émois adolescents.
Ouais.
Comment se passe la puberté, toi, ça va?
Alors, je crois que les pires années de ma vie, ça a quand même été le collège. Parce
ouais.
que je voyais mon corps grandir.
Mmh.
J'étais plus petit que les autres.
Mmh.
Je me trouvais pas beau. J'avais des copains qui étaient grands, qui avaient une mobilette. Qui fumait des cigarettes, qui était fort.
T'étais pas dans ces...
Et moi, je me sentais toujours... je me sentais plutôt en faiblesse.
Ouais, je comprends.
Par contre, pendant ces années-là, en revenant chez moi dans l'Est, j'ai réimporté mes schémas de piscine.
Bien sûr.
Avec d'autres copains, sauf que c'était pas à la piscine, c'était en allant se baigner à la rivière.
Donc là, ça venait de ton fait ?
Ouais.
Ok.
En fait, les
copains étaient...
Oui, ça a suivi.
Okay.
Et j'en ai un avec qui on a noué une relation où on a d'abord pris l'habitude de se la montrer, puis de se la caresser.
Vous êtes adolescent, là. Vous
on
êtes
est adolescent.
Et tout ça.
Ouais,
okay.
C'est ça. Okay. C'est ça. C'est...
Donc, on a dépassé on va dire l'entrée au collège où on est encore
mais
un
là,
peu
lent. Mais là, je suis plutôt dans la quatrième,
ouais,
quatrième
donc là,
troisième.
Là, t'as passé un ouais. step dans ta... dans ta relation à ça.
C'est ça, parce que j'avais en plus ces colonies de vacances qui m'avaient super boosté.
Ouais.
Et du coup, j'avais envie de remettre ça, mais j'étais plus petit que la plupart des filles.
Okay. ok.
Et donc, j'ai pris l'habitude de le faire avec les garçons.
Et les garçons accueillaient ça
avec un garçon en particulier.
Et ton pote, justement, il accueillait ça avec... Il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de gêne.
En fait, on avait une stratégie. On se disait qu'il fallait qu'on s'entraîne pour être au point le jour... Ou
avec une fille.
Et ben voilà, c'est ça.
Il y a Théo qui est bisexuel et qui parle de ça où au début en fait il y a pour lui il y a un truc de c'est comme un jeu et il a mis un temps à comprendre que c'est un vrai désir et pas que en attendant d'eux.
Entre cette période de collège début de lycée et le moment où ça s'est plutôt révélé à moi, il y a eu 15 ans de blackout.
15 ans.
Ouais, 15 ans.
Waouh.
15 ans où je l'ai oublié, où je l'ai...
T'as oublié à quel point ça te plaisait de faire ça aussi avec des garçons ?
Je crois que je l'ai même carrément oublié.
Ah ouais ?
Je l'ai carrément oublié parce que là, je fais juste un saut
ouais, bien sûr.
Dans le temps. Je suis allé bosser à un moment donné entre 2 cycles d'études à Londres. Et j'ai bossé dans un restaurant qui était tenu par un homo. Et alors, c'est le Londres de Margaret Thatcher hein, où c'est pénalisé. Et donc, notre restaurant est devenu une espèce de refuge à homo. C'était la cage aux folles, enfin, c'était, mais dans ce qu'elle a de charmant. Hein,
oui, bien sûr.
Et je me souviens avoir été dragué, mais pendant un an, par des beaux mecs qui me plottaient dans les escaliers et qui m'appelaient leur hétéro de service. En disant, ah, toi, on te convertira jamais. Lui, on se le ferait bien, mais c'est visiblement pas son truc.
Et toi, il n'y a eu aucun moment où ça s'est insinué en toi, où tu t'es dit, ah, peut-être que...
Non, c'est une période où c'était réenfoui complètement.
Est-ce que tu sais pourquoi, aujourd'hui à 55 ans avec le recul?
Alors là, je pense qu'il y a plusieurs notions. Il y a d'abord probablement une notion morale. J'étais en âge de réaliser que c'était peut-être pas l'ordre des choses. Il y avait une deuxième notion, c'est que je pense que j'ai été un mari assez épouvantable et plutôt un bon père.
C'est beau de le reconnaître.
Parce que je voulais des enfants.
T'en avais combien ?
Alors, j'en ai fait 3 avec 2 femmes et j'en ai élevé un 4e. Et ça, c'est une des parties de la vie qui m'a le plus comblé.
Ta paternité.
Ouais. C'est ça. Je pense que j'ai été un père avant d'être un mari. Et que du coup, j'ai été un mauvais mari parce que j'ai pas été aimant. J'ai pas été à la hauteur.
Les attentes de tes femmes.
Ouais, c'est ça. Surtout de la première, qui était pétrie de qualité. Mais voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'elles reconnaissent en premier quand elles parlent de moi.
Dieu sait
si elles ont du dossier pour, pour me déglinguer.
Mais Arnaud est un bon père.
Mais c'est ça, mais que j'étais plutôt très attentif à mes enfants.
Okay.
Donc, non, c'est vraiment... je me suis éclaté. Moi, j'ai même des souvenirs qu'une fois qu'on s'était bien masturbé, une fois qu'on s'était bien léché...
Là, on revient avec ton pote, mon pote sur les bords de la rivière.
On a essayé la Sodo.
À 15 ans?
Ouais. À la crème Nivea.
Ah, c'est un parti pris.
Mais on avait que ça sous la main.
Mais comment... Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous... Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est évident? Ou est-ce qu'il y a des images qui vous ont donné envie d'essayer? Est-ce que t'arrives à te rappeler?
On s'est dit que... Alors, on était un peu... il faudra qu'on soit à la hauteur pour pénétrer.
Les filles, sous-entendu.
Ah ben... Oui,
bien sûr.
Mais il n'y avait pas la moindre... 11 d'homosexualité entre nous. Hein, on faisait que se lécher,
pour
se sodomiser. C'était de l'entraînement.
Bien sûr, l'entraînement.
Donc, dans notre esprit, c'était de l'entraînement.
Oui, oui. Bah, comme ça, ça déculpabilise, tu ne te poses pas de questions, bien sûr.
C'est ça. Hein, donc, et d'ailleurs, ça s'est arrêté.
Si vous faites ça, vous, les auditeurs et auditrices, avec des copains, posez-vous les questions.
Ceux qui se poseraient des questions feraient probablement des gains de thérapie pour la suite.
Petit conseil.
C'est ça. Okay. Ça parce que quand, à un moment donné de ma vie, quand j'ai une des thérapies que j'ai fait pour essayer de comprendre.
Bien sûr.
Est-ce que j'étais obsédé? Est-ce que j'étais malade? Est-ce que c'était mal? Est-ce que c'était bien?
Par rapport à ton rapport aux hommes.
Oui. Un des éléments qui était venu, c'est que c'était quelque chose de sans enjeu. Tu ne fais pas tomber un homme enceinte. Un homme, ça accepte l'idée d'un rapport rapide qui s'éteint dès l'éjaculation.
Bien sûr.
Et donc, il y a une espèce de parti pris pour la liberté sans
l'enjeu, ouais.
Sans enjeu, dire, ouais. Sans tracas. Alors que maintenant, je peux dire que c'est beaucoup plus délicat ou beaucoup plus complexe. Mmh. Mais à l'époque, c'était du sexe, c'était rapide. C'était agréable,
oui,
c'était joyeux.
Ce que tu dis, c'est ludique, c'est rigolo, c'est sensoriel.
C'est ça, c'était notre secret. Et ce qui est fou, c'est que ce garçon-là, je ne l'ai pas revu depuis la seconde, mm-hmm. 15 ans. Je n'ai jamais revu. Donc, ça fait 40 ans. Je ne sais même pas s'il s'en souvient encore.
Ok, donc là, c'était première découverte d'une sexualité homo, on va dire ça.
Oui.
Et c'est votre secret, et ça, tu l'amènes au lycée avec toi,
nos parents se connaissent, on part en vacances ensemble. Pas grave les garçons, si vous êtes dans la même chambre, on fera avec.
Toutes les conditions étaient réunies.
Mais absolument, okay. Absolument. Donc on se quittait pas trop, on avait des grands lieux de jeu où on les trouvait à l'extérieur, enfin... C'était pratique.
Mais au-delà de cet apprentissage de votre sexualité, il y avait aussi, j'imagine, une connivence intellectuelle.
Oui, on jouait.
Vous entendiez bien.
Je me souviens qu'on faisait on jouait au ping-pong. On jouait des parties effrénées de risque.
Oui, donc il y avait aussi une relation de complicité amicale et tout ça.
C'est
donc
ça. Et un de nos sujets préférés, c'était les filles. Est-ce qu'on leur ferait quand elles voudraient? C'était un de nos gros sujets, quoi. Si on chope une fille, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais il y a même une fois, bon, ça faudra peut-être couper, ou pas. On était au ski, Et puis, il y avait quelques jeunes dans l'hôtel. Et donc, je noue une relation avec l'une d'entre elles. Mm-hmm. Et je la ramène dans ma chambre. Sauf qu'il était là, lui. Il a fait semblant de dormir. On a fait notre petite affaire.
Ok. Donc là, t'as 16 ans.
Ouais. Et du coup, quand elle est partie, on en a débriefé. C'était comment ? C'était bien. Et je crois me souvenir qu'on a remis ça tous les deux. C'est juste, fallait affiner la technique, quoi. C'était, voilà, mes plus belles vacances de ski.
J'imagine.
C'est ça.
Touchousse.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc, okay.
Donc du coup, tu as cette relation qui va durer donc, quelques années.
Oui, parce qu'après, il quitte le lycée.
Ouais.
Et du coup, je me retrouve privé de mon meilleur copain de jeu intime. Et c'est pas simple. J'ai essayé de refaire ça avec un autre qui m'a jeté.
Tu l'as compris, ça ? Qui t'a jeté ? Qui t'est...
Ouais. 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 Non, enfin, je l'ai compris. Je me souviens que j'en avais été assez désolé parce qu'il était très beau. Même si, on est d'accord, à l'époque, j'avais aucune...
Oui, il n'y avait pas de... Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu n'avais pas de critères, quoi.
J'avais pas de critères. Je le trouvais très beau. Il était adorable. On faisait plein de trucs ensemble aussi. Du ski, du vélo, des devoirs, des... Enfin, on faisait plein de trucs ensemble.
Et quand tu as essayé un petit peu de rentrer dans l'intimité, tu as senti que c'était un non catégorique.
C'est ça.
Ok.
Et donc, ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté au moins pendant 15 ans.
À partir de là, à partir du lycée, dans l'échange qu'on a eu par mail, tu me disais que tu as essayé via des thérapies de, alors, je voudrais pas être maladroite dans les mots, mais en tout cas de combattre ça.
Oui, pendant mon deuxième mariage.
Okay. Donc tu te maries une première fois, tu as quel âge ?
J'ai 20, en sortant de l'armée, j'ai 24-25 ans.
24-25 ans, vous avez vos enfants ?
Dans la foulée.
Donc, ok, t'es papa entre 25 et 30 ans, quoi.
Ouais,
t'es deux
c'est
premiers.
Ça. Okay. Donc, on fait les deux premiers.
C'est après que tu rencontres ta deuxième femme.
Ouais. Alors, c'est par contre pendant mon premier mariage que j'ai une révélation.
Ah. Donc, entre 25 et 30 ans, t'as une révélation.
C'est-à-dire que on habite Lyon. J'achète un petit futé, le guide. Derrière, et les dernières pages, il y a les soirées. Il y avait dans les dernières pages les lieux pour sortir.
De la ville où vous êtes. Okay.
Et je commence à feuilleter ça. Et tout d'un coup, je vois sauna.
Très futé, ce petit futé.
Mais non, mais sauna, moi je connaissais le sauna, j'aimais bien parce qu'on transpirait.
Bien sûr, sportif comme tu es.
Je vois sauna pour garçon. Et je vois des résumés de ce qui se passe dans ces saunas. Celui-là est plutôt cuir et latex, celui-là est plutôt natu, celui-là... Et je lis ça, ça me déclenche, mais une espèce d'émotion hystérique.
Ok.
De « je veux y aller ». C'est « waouh ». Et je me souviens avoir usé les pages à force de les lire et de me dire...
L'étape du point.
C'est ça, je veux aller dans un de ces endroits.
Tu me disais, avant qu'on entre, enfin qu'on commence l'enregistrement, que... Tu étais quelqu'un qui était guidé par ses caprices.
Oui.
Tu viens de faire vraiment comme un petit caprice, là. Hein.
C'est ça.
Comme un petit enfant. T'as
ben oui. Alors, des fois, j'en fais même la liste de mes envies.
Et je les
accomplis, mais jusqu'au bout.
Ah oui, vraiment, là, c'était marrant, cette gestuelle.
Et donc, je me dis, je veux y aller.
D'accord. Jamais rien ne t'avait donné envie, parce que ce soit des pubs, que ce soit des, je sais pas, quelque chose qui t'ait attiré jusqu'à l'armée. Il n'y a rien qui t'a...
Non. Non, parce qu'à l'armée, mon chef est gay.
Et ça t'a pas ? Non, pas du tout.
Le responsable du linge, alors là, est pas gay, il est ultra, giga, méga gay. Et il arrête pas de se frotter à moi. Et là-dessus, alors, je trouve ça agréable qu'il me caresse.
Ouais.
Mais non, j'arrive à le convaincre de mon hétérosexualité absolue, quoi.
C'est intéressant que tu ailles vers des hommes qui ne le sont pas.
C'est
pour
ça.
Faire de la sexualité homo, mais par contre, quand tu as des hommes qui te proposent...
C'est ça.
Intéressant, cette ambivalence. Ok, donc tu es à Lyon, tu as ce petit futé, tu as envie de découvrir ces saunas de garçons.
Et un été, je franchis la porte de mon premier sauna gay.
Tu as eu tes enfants ?
J'ai eu mes enfants.
Avec ta femme, ça se passe comment à ce moment-là ? Intimement, sans trop dévoiler, puisque...
Alors, avec ma première épouse, je crois que ça a été le chaos depuis... de notre premier à notre dernier jour. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup aimé, on s'est énormément engueulé. Et, et ça tapait, les engueulades tapaient de plus en plus fort. Et c'était ça, c'était quelque chose qui était triste parce que d'ailleurs je l'admire toujours énormément. J'ai essayé de lutter pendant pas mal d'années en disant qu'il fallait qu'on trouve un autre mode opératoire que celui de s'engueuler tout le temps, d'être tout le temps en concurrence, de toujours. Il y avait des gros enjeux de pouvoir entre nous. On s'était connus à l'école, donc il y avait un enjeu de notes intellectuelles, parce qu'en plus c'était une école de commerce, donc il fallait sortir dans les bonnes places. On a travaillé dans la même entreprise, il y avait un enjeu de carrière. On avait des enfants, il y avait un enjeu. Alors, c'est l'époque où il fallait être le meilleur père, la meilleure mère.
Toujours maintenant, t'inquiète.
Avoir la meilleure maison. Donc, il y avait... Et on accomplissait beaucoup de choses ensemble.
Ouais. Il y avait une surenchère qui devait être épuisante.
Elle a une intelligence prodigieuse dont je suis mais toujours resté fan. Sauf que on a détruit notre couple à cause de ça. Et donc, à ce moment-là, ça chiait.
Ouais.
Alors, ça chiait, c'est-à-dire qu'on s'engueulait très fort. On faisait très souvent l'amour. Souvent, d'ailleurs, après s'être engueulé. Donc, ça colmatait. Ça ne résolvait rien, mais ça colmatait. Ouais. On était tous les deux assez chauds. Donc, voilà, c'était dans cette période.
Je pense que tu capitules pas, en plus, toi, hein, dans l'engueulade.
Alors...
Fais une petite tête.
J'ai une de mes chefs qui a dit que je ne faisais jamais de prisonnier. Qu'en lutte, je ne faisais pas de prisonnier. C'est possible.
Donc tu vas dans ce sauna.
Je vais dans ce sauna. Alors là, j'ai failli mourir trois fois d'une crise cardiaque parce que je connais pas le mode d'emploi. En plus, je vais avec mon petit t-shirt à rayures.
Ta petite marinière.
La petite marinière, exactement. Le propriétaire me propose. Enfin, d'abord, s'assure que je sais où je suis.
Oui, il voit ta tête, que t'es pas habitué. Quoi.
Il me fait faire le tour du propriétaire, je trouve ça formidable.
Ok.
Et je me retrouve avec une serviette, mais enroulée, essayant de camoufler, mais là, cette fois, un maximum de choses, dans un sauna. C'est un sauna, du coup, je suis allé au sauna. Ouais, ouais.
T'avais des attentes ?
Non. Si, ce que j'avais lu. J'avais lu que je pouvais ensuite aller dans des cabines.
D'accord.
Mais je n'avais pas le mode d'emploi, quoi. Et là, un homme vient me voir, me pose une question à laquelle je n'ai toujours pas compris. Il me demande si je suis chrysalide ou papillon. Est-ce que tu es chrysalide ou papillon ? Et je lui dis, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dis, c'est ma première fois. Et donc, il me dit, viens. Je me souviens m'être jeté sur sa bouche.
Ah ouais.
M'être jeté sur son sexe. M'être assez trop. Rapidement retrouvé en train de le prendre. Ça a été, mais comme une première fois avec une fille, ça a dû durer 5 allers-retours.
5 cette fois.
C'est ça, là, il y avait peut-être l'expérience, okay. Là, et puis préservatif cette fois qui ralentit
bien sûr,
un peu.
Bien
quoi.
Sûr.
Et du coup, une fois que ça a été fini, j'étais dans l'urgence de partir, de me laver. Ouais. J'étais dans la honte. J'étais dans le. Et 2-3 jours après, j'étais dans le désir d'y retourner. Et voilà, et c'était... Et
comme une addiction, quoi. Enfin,
comme une addiction. Et à ne plus penser qu'à ça...
Une prise de drogue.
D'un versant, j'ai honte, mais je ne peux pas m'en passer. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à fréquenter les saunas.
Donc ça, c'est pendant...
Mon premier mariage.
Ton premier mariage jusqu'à ta petite trentaine, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et tu y vas régulièrement, du coup ?
Chaque fois que c'est possible.
Ça donne quoi, chaque fois que c'est possible, en termes de fréquence ?
Alors, ça dépend de mes déplacements. Au début, on habite dans la même ville, j'ai peu de déplacements où j'ai un hôtel.
C'est ça, parce que les hommes en couple mariés, c'est compliqué de trouver une ça. Petite sortie échappatoire.
C'est ça, puis on a des comptes en commun, on a les cartes. Faut toute une ingénierie.
C'est ça, donc les freins, c'est quoi ? C'est les comptes en commun ? On explique pour ceux et celles qui veulent.
Alors en fait, il y a trois freins. C'est la peur de croiser quelqu'un.
Que tu connais, bien sûr.
Alors, j'ai déjà
après, dans le sauna, ton banquier ne va pas répéter. Hein.
Alors, mais j'ai déjà assisté, moi, à une scène. Ah, toi aussi, t'es là ? Oui, moi, je viens surtout pour le sauna. Oui, moi aussi. Oh. Eh bien, on se voit demain au bureau. C'est ça. Et là, il va faire une crise cardiaque au vestiaire.
C'est tellement drôle.
C'est ça.
C'est tellement cocasse.
C'est ça. Donc, il y a ça. Il faut payer.
Oui, donc, comme tu dis, s'il y a des comptes communs ou... Oui, mais ça fait...
C'est
et, puis,
ça.
Et puis, c'est un coût, j'imagine, au bout d'un moment.
Ouais, alors, c'est vachement moins cher que l'hôtel.
Pas faux, j'avais pas, oui. J'avais
ça,
pas,
si tu choisis bien tes heures, c'est entre 10 et 22 euros.
Oui, donc effectivement, ça passe. Après, effectivement, comme tu dis, s'il y a des comptes en commun, au bout d'un moment...
Et puis après, c'est c'est le coup de fil auquel tu ne vas pas pouvoir répondre. Et dernier élément, parce que le lieu, ce n'est pas le sauna, c'est le hammam. C'est le plus... Ça laisse une odeur quand même d'huile essentielle. Tu sors, tu sens l'huile essentielle, tu n'as pas répondu à ton téléphone pendant une heure, il manque 20 balles sur ton compte.
Il y a des meufs, elles sont en train de cocher des cases.
C'est ça.
Gérard.
C'est ça, c'est ça. Et en même temps, je pourrais, je crois, écrire un guide des saunas. Pourquoi, j'adore ces lieux.
Pourquoi le hammam, c'est mieux que le sauna?
Oh, j'adore le hammam parce que, d'abord, température sèche.
Ah, c'est pour le cardio et tout.
Le
moins,
cardio, ouais, ouais. Ça ne fait pas très longtemps. Mm-hmm. Le hammam, il y a la vapeur.
Donc, c'est plus sensoriel.
C'est plus sensoriel. C'est sombre. Des fois, tu ne sais pas trop... à qui appartient?
Quoi?
Tu vois plusieurs mains, tu vois plusieurs corps, tu vois, et tu dis, et à qui ça appartient?
Est-ce que ça se fait naturellement? Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges avant? Ou est-ce que toute cette danse, on va dire, des corps, ça se fait naturellement?
Alors, il y a des endroits où c'est très... Je veux dire, il y a des endroits où c'est très popote.
C'est-à-dire?
C'est popote. Naturel et c'est fait dans la bonne humeur.
D'accord.
Et il y a des endroits où les gens font la gueule.
Ok.
Et il y a des endroits où c'est sordide.
C'est glauque.
C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il faudrait écrire un petit guide en disant
rien ne t'en empêche.
Là, c'est ça. Là, je prendrais peut-être un pseudo pour. Et donc, pour une première expérience, si tu vas dans un endroit que j'appellerais popote, en fait, ce que j'appelle ces endroits popote, c'est quel que soit ton âge, quel que soit ton physique, quel que soit le moment, t'as une chance.
Ok.
Donc, on te prend tel que t'es et.
T'as un rapport sexuel plus ou moins qualitatif.
Ouais.
À ce moment-là.
C'est ça.
Et ça peut être pas que du sexe. Enfin, je veux dire, tu peux juste embrasser, tu peux juste regarder, tu peux juste
tout
avoir un rapport.
Rien n'est obligé.
Buccal, enfin, oral.
Ouais.
Oui.
C'est ça.
Ok. Donc tu fréquentes ces saunas pendant quelques temps.
Pendant quelques temps.
Et en termes de fréquence, du coup, tu disais quand tu peux, ça donne quoi?
Dès que je peux, alors ça peut être.
C'est variable, quoi.
C'est très variable. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. Ok. C'est au moins tous les mois. Ça peut être plusieurs fois par mois. Et non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Tu divorces de ta première épouse, garde des enfants.
C'est ça. Alors en fait, je divorce en deux fois. C'est une première fois, on a un divorce réfléchi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on se dit... Bah,
on s'engueule trop. Quoi.
On s'engueule trop. Et donc, on se dit, on se quitte. Et là, je trouve un appartement. Et je commence à projeter ma vie. Et je rentre chez moi et ma première épouse... Je la retrouve au lit, déprimée, en larmes.
Ok.
Et là, je me dis, c'est pas possible, donc je refuse mon appartement. Et je lui dis, bah, écoute, tu vas te soigner.
Ok.
Parce que je te laisse pas comme ça. Je te laisse pas comme
donc
ça.
Vous vous séparez pas vraiment, quoi.
Et donc, on a une période de 2 ans. On est un pied dedans, un pied... C'est long, 2 ans.
C'est très long, ouais.
C'est
Même pour les enfants, c'est pas très... Enfin, j'en sais rien, mais...
Et 2 ans, et là, je commence à dire, faut qu'on aille habiter près de chez ses parents parce que c'est là qu'elle ira le jour où on va divorcer. Je suis persuadé qu'on va divorcer. Et donc, on déménage. On va. Alors, on est dans le non-dit. Hein. On ne dit pas qu'on se rapproche de chez ses parents. On se dit, oh, nous avons l'opportunité de. Alors après, on va dire que je calcule ou que je manipule, mais ça, c'est quelque chose que j'ai provoqué à dessein.
Tu savais qu'il fallait qu'elle se rapproche de sa
famille. Et moi, je voulais du coup avoir une maison de là où elle serait quand on divorcerait parce que j'avais qu'une angoisse, moi, c'était ne plus voir mes enfants.
Bien sûr.
Donc, on y va. Au bout de 2 ans, elle a retrouvé quelqu'un. Donc, elle me plaque.
Donc, vous n'êtes plus ensemble, mais...
Non, on est dans la même maison. C'est pas officiel, mais elle rencontre quelqu'un. Je le vois venir. Et comme je suis pas du tout jaloux, je les laisse se voir.
T'es presque soulagée, non?
Mais oui. Ouais. Et un jour, elle me dit, je te quitte. C'est ça. Je te quitte et je dis, bah chouette. Enfin.
Tant mieux.
C'est ça. Hein.
On arrive au bout.
Entre temps, j'ai rencontré ma deuxième épouse.
Petit arrêt sur cette période sauna, etc. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis, j'aime avoir des rapports sexuels avec les hommes, mais ça n'a rien à voir avec mon intimité.
Je crois que je me dis rien. Je crois que je me suis même menti. Je crois que je n'ose pas me le dire.
Mais comment tu le justifies avec toi-même?
J'ai honte.
T'as honte.
J'ai honte.
Et tu te dis quoi? Tu te dis que c'est plus facile avec les hommes parce qu'avec les femmes c'est compliqué et du coup avoir un rapport avec un homme.
Dieu sait si je serais capable d'écrire un roman sur un fromage. Mais là-dessus, le néant, je ne dis rien.
Tu ne dis rien. Tu fais ce que tu as à faire.
Ouais.
Et après, tu reprends ta vie comme elle est.
En fait, ça, j'ai compris après.
Okay.
En fait, je l'ai compris, mais des années après.
D'accord.
Ce qui s'était passé. C'est-à-dire que ça, je pars en déplacement.
Mm-hmm.
Tout d'un coup, je cherche un sauna.
Ah oui, c'est automatique.
Tout d'un coup, j'y vais. J'ai un niveau d'excitation énorme jusqu'à la porte. J'y fais ce que j'ai à faire. C'est pas toujours très bien, d'ailleurs.
Mmh.
Et ensuite, j'ai une espèce de cure de honte.
Ouais.
En me disant, c'est la dernière fois. Tu sais, c'est comme la dernière cigarette pour ceux qui essayent de s'arrêter ou le dernier verre pour ceux qui doivent pas boire.
Mmh. Ouais, je comprends.
Ou le...
Il y a un truc de... Oui, oui. On le sublime un peu, quoi, à ce moment-là.
Comme un drogué.
Ouais, ouais. Comme
un drogué,
drogué
du sexe.
Tout ce que tu racontes, ça fait ça. Hein. C'est la préparation, l'excitation, la phase, la redescente, la culpabilité. Le « j'y retournerai pas, mais j'y retourne ».
Et j'y retourne toujours.
On remplace tout ce que tu dis par n'importe quelle drogue dure ou peu importe, c'est la même chose.
Par contre, j'ai aucune relation suivie. Et j'ai aucune intention à cette époque-là d'avoir une relation suivie.
Oui, ça t'intéresse pas, la personne derrière. Ce qui t'intéresse, c'est le sexe à ce moment-là.
C'est la liberté du sexe parce que je l'ai choisi, comme je l'ai choisi.
Avec un homme.
Avec un homme, mais attention, je ne suis qu'actif à ce moment-là.
Ok.
Parce que
pour garder le...
Je suis quand même pas un PD, quoi. Je suis quand même...
Parce que si ça avait été la même chose, un sauna avec des femmes, tu serais allé, tu penses?
C'est une bonne question, mais ça n'existe pas. D'ailleurs, j'en parle souvent avec ma compagne.
Ouais.
Ça n'existe pas... Enfin, si, ça existe, c'est les clubs libertins.
Ont... Ouais, il y a des femmes qui ont des... Enfin,
ouais,
des
ça existe, mais c'est pas... Si...
C'est pas aussi évident, en tout
c'est
cas.
C'est pas aussi évident.
Ouais, je comprends.
Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai scindé en disant que les femmes, c'est le quotidien. Les saunas, c'est l'accessoire.
Ok, c'est l'exceptionnel, quoi.
C'est l'exceptionnel.
Ok.
Les femmes, c'est positif, c'est bien. Et d'ailleurs, pendant cette période, je ne me lasse pas du corps des femmes. Jamais.
Oui, donc tu rencontres ta deuxième épouse à ce moment-là.
Alors, j'ai une phase où je rencontre ma deuxième épouse. Je suis encore marié à la première.
Mmh.
Et puis y a un truc qui va pas. Enfin, j'arrive pas à gérer deux relations
avec des femmes.
Avec des femmes. Donc je la quitte ma future deuxième épouse en lui disant écoute.
Je suis encore marié, c'est compliqué.
Je suis encore marié et c'est pas possible. Alors qu'elle m'a donné. Mais en fait, je lui dois quand même la première fois qu'on s'est vu. Je me souviens. D'une nuit d'amour où je me suis senti redevenir un homme.
Ah, c'est intéressant. Définis-moi, qu'est-ce que redevenir un homme ?
C'est-à-dire que j'avais repris le contrôle.
Ok.
J'avais repris le contrôle de moi.
Ouais.
C'est une nuit pendant laquelle je me suis aimé un peu. Je me suis aimé l'aimer. Pour l'anecdote qui est un tout petit peu croustillante, c'est ma mère qui nous a présenté.
Trop.
Parce que ma mère ne pouvait pas saquer ma première épouse.
Ah, ok.
Et là, j'ai eu une soirée un peu magique. J'ai eu une nuit d'amour magique.
Parce que tu étais valorisé par une femme.
Oui. Et je me suis senti redevenir un homme qui était regardé par une femme avec les yeux de l'amour. C'est ça. Et on a eu une période passionnelle. Enfin, je me souviens qu'on pouvait faire l'amour, mais un nombre de fois incroyable ou inenvisageable aujourd'hui, même avec la science. Donc...
C'est différent.
Mais donc c'est là... différent, oui, voilà, c'est ça.
Okay.
Mais voilà, et donc on a ce moment de passion.
Mmh.
Et puis à un moment donné, je me dis, ouais, mais j'ai pas le mode d'emploi pour divorcer.
Alors que ça n'allait pas du tout avec ta première femme.
Alors que ça allait, mais je crois que les bonhommes, on est des gros lâches. En fait, ça m'a bien plu, oui, ça, non mais j'assume très bien ça. Ça m'a bien plu qu'elle se trouve quelqu'un pour me quitter, quoi. Elle nous a arrangé le coup.
Elle fait le job, quoi.
Elle a fait
ça,
le job.
Pas, ouais.
Elle a fait le job. Donc,
zou, on divorce avec la première femme.
Donc, on divorce. Et sauf que le jour, dans cette période où on a divorcé, ça a été une année cataclysmique. Coup à coup, j'ai eu un accident de tennis. Je me suis explosé contre une barre en fonte. C'est ça.
Ton épaule ?
Oui. J'ai appris que ma mère allait mourir.
Ah ouais.
Et j'ai perdu mon job. Et c'est là où elle me dit « Ah, au fait, j'ai rencontré quelqu'un, je te quitte. »
T'as fait beaucoup pour un seul homme.
C'est ça. Et du coup, c'est là où cette femme que j'avais quittée est réapparue. Et du coup, j'ai craqué en disant, mais je vais avoir une femme qui est jolie, qui sent bon, qui va s'occuper de mes enfants quand ils sont en garde chez moi, qui met des petites fleurs partout, qui me valorise.
Le féminin, quoi.
Ouais, c'est okay. Ça, qui me valorise, et qui me dit que je suis beau, qui me dit...
qui te désire.
Qui me désire. Et donc, on a entamé une vie ensemble.
Ton deuxième mariage.
Mon deuxième mariage.
Elle avait un enfant, elle ?
Oui, qui était petit, que j'ai élevé comme le mien.
Et vous avez eu un autre enfant ensemble.
Et on a eu un autre enfant ensemble.
Okay.
Alors, après, on s'est mariés. Moi, je n'étais pas trop fan de la cérémonie, enfin, oui. Du principe même du mariage. Mais j'avais dit oui la première fois, alors je ne pouvais pas me défiler la deuxième. Et elle voulait absolument un enfant. Moi, à l'époque, j'avais 40 ans. Je me disais que je commençais à devenir un peu vieux, quoi. Et du coup, on l'a fait quand même. On l'a fait quand même. Et d'ailleurs, je m'en réjouis. Parce que
t'as un grand ado, quoi.
C'est ça. Je me suis aperçu qu'en fait, c'était une seconde impasse, ce mariage.
Ok. Donc, vous avez été heureux en mariage quand même ?
Ça a été bien 2-3 ans. C'était une erreur. Je ne l'aimais pas. Je l'aimais pas et du coup, c'est là où j'ai réété un père accompli.
Ok.
Avec les miens, avec le sien, avec la nôtre. Et un mari pas aimant, pas à la hauteur de ce qu'une femme attend.
T'étais fuyant, t'étais désagréable, t'étais un mari comment ?
Un petit peu de tout.
J'ai choisi mes mots.
Je pense que j'étais autoritaire, j'étais cassant, j'étais fuyant, j'étais lâche. Je pense que j'ai... Franchement, je ne m'accorde pas un
pas
gros...
Ouf.
Pas ouf. Là, j'ai redoublé dans les saunas. J'ai redoublé mes visites dans les saunas. Et je me suis fait choper.
Par ta femme ?
Ouais.
Oh waouh, raconte-nous comment elle t'a chopé.
Auditeur, si tu m'écoutes, il y a des tutos pour enlever les spams dans les ordinateurs quand tu cherches un sauna. En fait, je me suis fait choper parce que j'avais mal évalué mes spams. Donc, je suis rentré un soir, elle m'attendait, elle a ouvert l'ordi, elle a dit « C'est quoi ça ? » T'as le cœur qui serre, tu transpires, tu commences par dire « Non, c'est pas ce que tu crois. »
Elle avait des doutes pour regarder tes spams ? Tu regardes pas les spams par hasard ?
Je sais pas.
Ok. Et donc là, tu lui dis tout ?
Non, j'en dis une partie. Et... Non, je promets...
Que ça n'arrivera plus.
Que ça n'arrivera plus et je me fais re-choper. Je tiens quelques semaines parce que c'était déjà assez excitant. L'interdit était déjà assez excitant, mais l'interdit de l'interdit.
Ah voilà.
On est à un niveau...
Quel joueur ?
C'est ça.
Donc là, tu te fais choper. Là. En plus, j'imagine de ce que tu dis, elle ne comprend pas.
Mais non.
Bah,
c'est ça. Et là, il y a une espèce de... Elle a un médecin de famille,
ouais.
Très catho. Et là, elle dit, il n'est pas comme ça. Il faut le soigner.
Ah, parce qu'elle ne connaît pas du tout cette partie de toi, donc du coup...
Il n'est pas comme ça, je le connais bien, parce que c'est mon médecin aussi.
Ok.
Et donc, les femmes décident que je dois être soignée.
Quand tu dis les femmes, c'est qui ?
Elle, le médecin.
La médecin, c'est une femme. Ok.
C'est ça. Elle décide à deux que je dois être soignée. On me dit, écoute, t'es pas comme ça, il faut te soigner. Et je me retrouve en thérapie.
Pour changer.
Pour ne plus être pédé.
Pour ne plus être homosexuel.
Et je me souviens de ce premier rendez-vous avec le psy où je me suis effondré en larmes. Docteur, aidez-moi. Je veux plus.
Et là, t'as quoi ? T'as 40 ans passé ?
Ouais. J'ai plus de 40 ans. J'ai 43, 44 ans.
Donc, c'était une petite dizaine d'années.
Ouais.
Et quand un homme comme toi... socialement établi, père de 4 enfants, comme tu dis, assez autoritaire, patriarche, etc., se retrouve dans un cabinet de psy en larmes parce qu'en fait, on lui dit « mais on va vous soigner ». Enfin, c'est incroyable comme image.
Ah, c'est terrible. Mais là, dans ce cas-là,
toi, t'as envie de changer ?
J'ai envie de changer, je veux plus. Je veux qu'on me trouve le moyen de ne plus avoir ces pulsions. Et là... J'appelle ça des pulsions. Et là, je suis tombé sur quelqu'un de très bien.
Heureusement.
Qui ne m'en a plus jamais reparlé. On a parlé d'autre chose. C'est-à-dire, en bon professionnel.
C'est un bon professionnel.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a parlé de ma relation avec mon père qui est compliquée, de ma relation avec ma mère.
Que tu avais enterré quelques années avant.
Ah ouais, et puis j'avais enterré alors qu'on n'avait quand même pas coupé notre cordon. On a oublié de couper le cordon entre elle et moi. Donc,
pas ouf non plus.
Pas ouf non plus. En plus, elle s'est donné la mort. Donc, et je le savais. Oui. Donc, je gérais ça. Donc, on a réglé tous mes vieux démons.
Le deuil, les relations, etc. Vous parlez pas de justement de ces pulsions.
De temps en temps, je reviens. Au fait, c'est sympa.
Ça,
c'est sympa de vous voir deux fois par semaine, mais quand est-ce que vous me guérissez ? Et donc, de temps en temps, par politesse, il abordait le sujet. Le travail qu'on fait ensemble me fait progresser. C'est-à-dire que je commence à me sentir bien, je commence à comprendre des choses. Et il me donne quelques clés de compréhension en me disant « Attendez, avec le rythme que vous avez, avec les émotions que vous avez, ce machin-là, il vous fait souffler tout autre chose, quoi. Va courir, Bob.
» Toujours pareil, on en revient.
Plutôt que de sauter un mec, fais un jogging. C'est ça. On travaille ensemble.
Ouais. Combien de temps ?
Ah, ça a duré presque un an.
Ouais.
Ça a duré presque un an. Donc, et un jour, il m'annonce qu'il ne va pas tarder à partir à la retraite. Et moi, je lui dis que je pense que j'en ai fini avec lui. Et il me dit qu'il est d'accord. Et donc, on se quitte.
Un vrai bon professionnel. Hein.
Ouais. Alors, il était quand même très, très beau. J'avais quand même un peu de transfert.
Et donc tu sors de là, tu te sens mieux avec toi-même ?
Ouais. Et là, j'ai même eu une période d'abstinence. Sauna, hammam, garçon.
T'es avec ton épouse là ?
Ma deuxième, ouais.
Ça va mieux ?
C'est toujours un peu entre nous, c'est-à-dire qu'elle s'en sert assez vaillamment. Oh, j'achèterais bien cette nouvelle maison. Tu te souviens après tout ce que j'ai fait pour toi et tout ce que tu m'as fait endurer ? Donc on change de maison, on change de voiture.
Votre sexualité, comment tous les deux ?
Ça, c'est terrible. C'est une fois le vendredi. Je me souviens que j'avais trouvé le moyen de la faire jouir.
Ok.
J'étais assez content de la faire venir jusqu'à l'orgasme. Et mon orgasme, elle s'en battait les steaks. C'est-à-dire que voilà, on a une sexualité à sens unique,
ouais,
que je quémande.
Ouais.
Parce que je vis dans l'humiliation de je t'ai chopé, gros.
Ouais,
je t'ai chopé.
Je sais. C'est ça ce que tu fais. Donc,
c'est ça. Okay. Et en plus, je ne l'ai dit à personne.
Et donc il y avait un moyen de pression aussi.
C'est ça. Et donc je me rue sur le travail. En fait, je me mets à bosser comme un fou.
C'est l'exutoire.
Je cours, je bosse.
Okay.
J'élève mes enfants. Et je fais comme je peux avec elle. Et d'ailleurs, une fois même pour me féliciter de ma très bonne tenue, parce que de temps en temps, elle me demande régulièrement si je me conduis bien.
Wow.
Et à chaque fois, je lui dis, bah oui, c'est bon. C'est bon, tu peux me demander. Et donc, elle m'offre un jour un soin.
Ok.
Qui s'appelle le soin de l'homme parfait.
Le soin de l'homme parfait. C'est un massage.
Un massage.
Massage dans un spa lambda.
Non, lambda.
Ok.
Et là, je rentre en cabine.
Ouais.
Et le masseur commence à me caresser bien les jambes, bien les fesses. Et je commence à sentir des picotements.
Mais non.
Et là, je lui dis...
Enfin, c'est toi qui ressens ça.
Ah non, mais...
Oui.
Ses caresses n'étaient pas équivoques.
T'as fait d'autres massages. Tu sens que là, il outrepasse le...
Il outrepasse. Oh, et donc, je commence à lui dire, c'est plus simple si j'enlève mon caleçon. Mais oui. Et donc j'enlève mon caleçon. N'oublie pas que c'est le soin pour me récompenser.
Je suis choquée.
De ma bonne tenue. Et donc j'enlève mon caleçon, mais je suis sur le ventre.
Oui,
il me dit, faudrait vous mettre sur le dos. Et là, il me fait une fellation. Alors, dans la cabine.
Je n'ai pas les mots.
C'est moi non plus. Moi-même, ça me choque un peu. Et donc,
il fait une fellation. C'est un homme parfait.
Mais c'est... Et je rentre et elle me dit, alors ce soin. Et je lui dis, parfait. C'était parfait.
C'est incroyable. C'est gaguesque tellement ça c'est paraît
ça. C'est ça.
Impensable.
Et ça, tu sais, je veux dire que j'ai eu d'autres fois des massages, parce que j'aime bien en plus les massages.
Bah ouais.
Je n'ai jamais eu de...
Mais là,
c'est comme s'il y avait une espèce d'alignement de planète. Ah ouais, elle a voulu...
C'est un pied de nez incroyable.
Mais oui. Elle a voulu te faire ça. Eh ben, tiens, prends-le.
Et le masseur, il n'y avait rien d'équivoque. Enfin, vos premiers contacts...
Ah non, c'est un salon Capignon sur rue. Où la plupart du temps, c'est même plutôt des femmes qui te massent. Et là, c'est un remplaçant. Et d'ailleurs, il me le dit en rentrant dans la cabine, vous ne me connaissez pas, je suis un petit remplaçant. Bah, viens.
Incroyable.
Donc,
ok.
Et me voilà relancé sur le marché.
L'univers t'envoie un signe.
L'univers m'envoie un signe. Et donc là, je commence à me dire, ouais, j'ai été abstinent.
Ouais.
Ma vie, c'est de la merde.
T'es malheureux, là ?
Ouais. Je suis malheureux parce que je commence à avoir envie d'un plan d'évasion. Ma petite dernière, je me dis qu'il faut qu'elle ait au moins 10 ans. Il reste encore quelques années pour qu'elle ait au moins 10 ans, au moins pour supporter le choc de la séparation.
Qu'est-ce que tu en penses, ça, d'ailleurs, des gens qui attendent, qui mettent des dates comme ça pour les enfants ? Tu trouves que c'est mieux ?
C'est ce que j'ai fait à chaque fois.
Ouais.
Donc, pense que dans ces cas-là, on fait comme on peut. Alors, j'aimerais avoir un jour un avis objectif et objectivé d'un pédopsie. Sauf que... Comment je pourrais... Non, je vais le dire autrement. Je ne crois pas beaucoup aux gens rage. C'est-à-dire, il y a bien des différences entre les femmes et les hommes, mais je pense que les hommes peuvent aussi bien s'occuper des enfants que les femmes. Je pense que les femmes peuvent se conduire aussi mal que les hommes. Il se trouve que dans 80% des cas, les mecs se barrent bosser.
Ouais.
Et dans 90% des cas, quand l'un agresse l'autre, c'est plutôt un homme qui agresse une femme.
Mmh.
Mais néanmoins, dans mon fort intérieur, je pense que si on n'avait pas tous ces... Si on ne nous avait pas donné tous ces a priori...
Ces schémas-là, ouais.
Tous ces schémas-là, on pourrait, homme ou femme, élever les enfants de la même manière.
Mmh.
Sauf que le schéma classique, le juge l'a en tête. Maman est malheureuse parce que papa est un connard, je vais donner la garde à maman et une grosse pension à papa.
Ouais, je comprends.
Et je me suis d'ailleurs juré un jour de travailler là-dessus. Hein. Pendant des années, sur mon premier divorce, je recevais les factures de cantine et mon ex-épouse recevait les bulletins. La question d'un père qui va voir qu'il va se séparer, ben forcément, il sait que le système ne lui sera pas favorable s'il tient à ses enfants. Et donc, il sait qu'à partir de 10-11 ans,
la parole de l'enfant sera prise en considération.
Donc, sur cette période-là, ouais, je suis malheureux comme une tombe, je bosse comme un con. J'aime pas ma vie, je m'aime pas. Et
donc, ce masseur fou te rend...
me réanime la flamme.
Te réanime.
Sauf que je me dis, j'ai plus envie de courir les saunas comme ça. J'aime bien cette relation-là.
Mmh.
Et donc, je commence à aller sur les applis.
Oh, waouh. Donc là, c'était il y a une petite dizaine d'années.
C'était il y a 7-8 ans.
C'est ça. Donc, les applis sont dans la place.
Les applis sont dans la place.
Donc, du coup, tu commences par laquelle ?
Je crois que j'ai pris Gayfuté.
Gay futé.
Mais oui, le petit futé. Le petit futé m'avait l'air.
On reste, une petite réminiscence, ok.
Et là, je rencontre un premier homme qui court comme moi. Et on se retrouve on se retrouve à faire des footings. On discute et on décide d'avoir du sexe ensemble, mais ça ne se fait plus comme dans les saunas où tu as du sexe et tu n'as pas de lendemain. Là, je commence par nouer une relation.
Mais du coup, vous êtes catché sur l'appli en vous disant quoi ?
Et si on se voyait ?
Okay.
Et puis on se voit comme un rendez-vous classique.
D'accord, il n'y a pas de...
Personne n'a amené un petit bouquet de fleurs, mais c'était pas loin.
C'était des rencontres sans lendemain à la base ou...
À la base, je suis allé... Alors là, j'ai découvert. Hein,
Bah oui, parce que c'était tout début, toi.
Et donc, on s'est vu, on a fait un footing ensemble, on a discuté. Vraiment,
ok, d'accord.
Et puis on s'est dit...
C'était le programme, quoi.
On s'est dit qu'on... Oui, pas de sexe.
Ok.
No sexe. Alors, c'est très loin du sauna
c'est
sur lequel...
Passe...
C'est ça. Et puis, on décide quand même d'avoir du sexe. Et donc, l'hôtel, c'est un peu cher. Chez moi, c'est pas possible. Chez lui, c'est pas possible parce qu'on est tous les deux mariés. Et donc, je lui dis, mais je connais un endroit pas très cher. Et donc, on va au sauna.
On y revient toujours.
On y revient toujours. Sauf qu'on y va et on s'enferme dans la cabine. On fait ce qu'on a à faire. Et chacun retourne vivre sa vie.
Mais sauf que là, vous êtes vu en dehors du sauna, donc il y a...
Alors, on court ensemble, mais là, on court.
Okay.
Y a rien de... Ça a dû nous arriver sous un pont une ou deux fois de se faire un plan nature.
Ok.
C'était assez rigolo.
C'est un pote. Comment tu le définis ? C'est un...
c'est sur le tard. J'ai découvert à ce moment-là le terme sex friend,
okay.
que j'ai trouvé super génial.
Ça veut tout
c'est
dire.
Un ami et on ouais. fait du sexe.
Lui, il est aussi marié.
Il est aussi marié, sauf qu'on a une relation, on commence à parler de plus en plus.
Ouais.
Et je sens qu'il est en train de tomber amoureux.
Tu sens qu'il y a du sentiment qui commence à se mêler.
Ouais. Ouais. Il y a du sentiment tout simplement parce qu'il devient jaloux, il devient... On commence à avoir des disputes débiles. Et du coup, je romps parce que...
Ouais, tu mets fin, ouais.
Je me suis déjà fait chier deux fois, c'est pas pour remettre ça.
Là, t'as divorcé de ta femme à ce moment-là. Hein.
Pas de la deuxième.
Pas encore la deuxième.
Mais je sens que c'est dans les tuyaux.
D'accord.
Et je me dis, je vais pas passer d'un... courir d'un divorce à l'autre. Je retourne sur l'appli et là, je tombe sur une annonce pour un couple.
Un couple d'hommes ou un couple hétéro
femme.
Qui cherche une troisième personne.
Qui cherche une troisième personne. Et là, je me dis, mais c'est parfait.
C'est tout moi, ça.
Mais c'est tout moi. Et donc... On se rend compte, il est tout seul, on a une partie de jambes en l'air géniale.
Et sa femme ?
Elle est au boulot, mais elle sait qu'il est... Sauf que là, je tombe amoureux.
De ce garçon, de cet homme ?
Ouais, mais je tombe redingue amoureux de lui.
C'est un coup de foudre ?
Ouais, c'est un vrai coup de foudre. C'est-à-dire que j'ai la... gorge sèche quand je pense à lui. Je fais des trucs débiles de lycéen. Tu sais, je vais regarder sur Google Maps sa maison pour avoir un peu l'impression d'être chez lui.
C'est vrai que c'est très bizarre de faire ça.
Je passe devant sa maison. Je vais faire les courses près de son supermarché.
Alors, je commence à...
Et on a une activité intellectuelle. On commence à s'écrire une nouvelle érotique où... chacun doit rédiger une page
dans la continuité
érotique.
Okay.
L'autre la reçoit, la complète d'une page. Super. L'autre la reçoit. On écrit un truc super chaud. Donc on a finalement une relation intellectuelle. On écrit et on s'embête un peu à écrire. Enfin, on se ouais. donne du mal à écrire. On a une vie sexuelle. Il est très drôle. Il est totalement bipolaire. Oui. Et il se prend ses traitements pas trop souvent. Donc quand il a des et avec des moments de haut
des
et de bas.
Phases maniaques et des phases dingues. Ok, donc.
Et dans ces phases dingues, il est super créatif. Il est génial. Il est génial. Et en fait, je lui ai dit après parce que on est resté longtemps en relation après. En fait, il m'a fait découvrir que mon cœur pouvait encore servir. C'est-à-dire que j'avais renoncé à être amoureux. Je m'étais dit que je n'étais pas fait pour être amoureux. Je savais pas trop ce que j'étais d'ailleurs. Et un jour, je lui ai dit que je l'aimais. Et il m'a dit, écoute, mais non, mais moi, c'est ma femme que j'aime. J'aime le sexe avec toi, mais rends-toi...
Oui, oui.
Et je me souviens que ça m'avait même pas fait de peine. J'avais dit, mais je m'en fous. Je viens de découvrir que je pouvais t'aimer. Et donc, si je pouvais t'aimer, c'est que je peux encore aimer. Et si je peux encore aimer, c'est que je peux encore vivre.
Waouh.
On a comme ça cette relation alors qui est un peu chaotique.
J'imagine, ouais.
Parce qu'il était lui-même chaotique.
Et lui se définit comme hétérosexuel, comme bisexuel, comme...
Je sais pas s'il se définit.
Ok.
Je sais pas s'il se définit.
Sa femme était ok qu'il ait de cette vie avec toi.
Ouais. Et puis, mais il me l'a présenté.
Ok. Et c'était...
Il me l'a présenté d'ailleurs. Après, c'est plutôt elle que j'ai vue.
D'accord. C'est comme son amant.
Ouais. Alors, en fait, elle me voit et elle lui dit, mais il est pas bi. Il est totalement homo, lui.
Très drôle.
Et donc, je vais la voir et je lui dis... Je vais
non,
la voir
pas du tout.
Et je lui dis, mais comment tu sais ? Enfin, t'en sais plus.
Que moi, en me voyant une fois.
C'est ça. Et je lui dis, j'ai très peur d'être homo et de plus savoir faire avec une femme. Donc, on a couché ensemble. Et ça l'a fait marrer. Elle m'a dit, mais en fait, on s'en branle, t'es sexué. T'es simplement sexué. T'aimes... Si tu rencontres un garçon avec lequel tu as envie d'avoir du sexe, tu le fais. Si tu rencontres une fille avec laquelle tu as envie d'avoir du sexe, tu le fais. Tu es sexué. Donc arrête de te prendre la tête avec ces codes. Tu n'as pas de code. Et fais ta life. Et à partir de ça, là, j'ai vraiment compris. C'est elle, en fait, qui m'a donné la clé.
Ce couple t'a beaucoup aidé.
Oui, okay. Oui.
Énormément, ouais.
Énormément. D'ailleurs, on s'est revus deux, trois fois pour se faire des petits câlins. Alors après, on a commencé à faire des câlins à trois.
D'accord.
C'était rigolo.
J'imagine.
C'était rigolo. C'était popote.
C'était popote.
On mangeait, on buvait un petit coup.
Et bam, popote.
Et puis après, on avait du sexe, mais en rigolant.
En bonne, la bonne franquette, quoi.
C'est ça.
Ok.
Et donc là, je commençais à savoir un peu où j'allais. Et là, j'ai rencontré quelqu'un que je vois encore maintenant.
Ok.
Un garçon.
Ok. Un homme.
Un homme.
Donc, il y a quoi? Il y a 5 ans, 6 ans.
Ouais, 5, 6 ans. Et là, lui, m'a vraiment fait découvrir ce que c'est que le vrai sexe.
Homo.
Homo.
Lui, il est homo, 100%.
Et il est totalement hétéro.
Ok.
Tu vois, c'est de l'hétéro.
Je ne les ai pas. Hein.
Tu vois, c'est de l'hétéro. Quand on nique ensemble pendant 2 heures, je ressors de là en me disant, il est très, très hétéro, mais pas complètement.
Donc,
il est bi.
Il est bi.
Il est okay. Complètement bi, okay. Complètement assumé.
Okay.
Complètement non-genré. Okay. Par contre, il m'a fait découvrir dans le sexe entre garçons le lâcher-prise.
Un homme de ton âge ?
Plus jeune que moi.
Okay.
Mais dans sa tête, probablement plus mature. Je dois être le gamin de nous deux.
Okay. Et tu te rencontres par appli ?
Ouais.
Okay.
Et la première fois, j'ai peur, j'y vais pas. Il me reparle quand même. Parce qu'en général,
oui, t'es basé
tu files un lapin, tu te fais
ghoster direct. Ouais.
Il me redonne une chance. C'est un peu rude, c'est un peu violent.
Ouais. Le sexe.
Le sexe.
Ouais.
Parce que
là, t'es toujours actif, toi. T'as pas encore.
Non, non. Et il me dit, moi, je suis qu'actif, donc je passe à la casserole comme passif, pas bien préparé.
Ah oui.
Et c'est un peu rude.
C'est pour ça que c'est un peu rude, du coup. L'explication est là.
C'est ça. C'est un peu rude. Puis en plus, je sais pas.
Ouais.
J'ai pas les codes.
Ouais.
Je sais pas faire un lavement.
Oui, t'es en phase d'apprentissage, quoi.
C'est en phase d'apprentissage.
Et ça, tu le caches toujours à ta deuxième femme.
Ah ben, complètement.
Okay.
Je suis guéri. Faut pas oublier.
Ah oui, c'est vrai que t'es guéri, n'oublions jamais.
Je suis complètement guéri. Quoi.
Et le masseur t'a fait un massage simple.
C'est ça, je suis complètement
okay,
guéri.
Okay.
Et donc, on se voit et je me souviens, il m'a fait, mais j'ai eu deux événements avec lui. Alors, il habite à 100 mètres de mon bureau, ce qui est assez pratique.
Tu m'étonnes,
mais
le
oui.
Petit 5 à 7.
C'est ça. Et un coup, on fait le repas de Noël et je débarque chez lui à minuit, fin bourré.
Oui. Repas de Noël.
Repas de Noël. Et là, je suis en total lâcher prise. Et là, en tant que passif, mais j'ai un orgasme.
Ouais, tu te laisses aller, c'est...
Waouh. Et je lui dis, ça me fait même peur. C'est-à-dire que j'y retourne plus pendant 2 mois et demi. Et donc, il décide de travailler avec moi sur le lâcher prise. Et donc, il commence à me faire des trucs... C'est probablement assez proche du BDSM.
Ok.
Le machin, quand t'es attaché...
Faut que tu lâches un peu
ouais,
et que tu te laisses un peu plus porter.
Et il monte de plus en plus l'intensité de nos relations. Et moi, je monte de plus en plus en jouissance. Et on a cette espèce de relation...
Oui, donc vous avez une relation quand même très forte et en tout cas qui va dans l'apprentissage et dans le lâcher prise pour toi.
C'est ça.
Donc, il t'a vraiment fait grandir sexuellement.
C'est ça. Et là, on arrive à... la veille du premier confinement.
Là, tu es toujours avec ton épouse. Hein. Comment tu arrives à juste petit, avant cette partie-là, comment tu arrives à gérer cette double vie? Parce que là, on n'est plus du tout dans le déni quand tu allais dans les saunas il y a 15 ans. C'est là, tu vis vraiment des relations, tu prends des rendez-vous, tu as une double vie.
Ouais. Alors, j'assume de plus. Enfin, je sens que je suis de plus en plus proche de la rupture. On fait chambre à part, je suis assez régulière, elle m'humilie assez régulièrement, enfin, une espèce de posture, n'oublie pas que je sais, n'oublie pas que j'ai rien dit. Ça fait quand même plusieurs années que...
Elle est malheureuse.
Ouais, elle est très malheureuse. Elle est auto-centrée, malheureuse.
Elle t'aime, tu penses?
Je pense que c'est elle-même d'une façon un peu pathologique. Je l'avais rencontrée, elle, en 92, j'étais encore étudiant. J'ai appris plusieurs années après que du jour de notre rencontre, elle avait commencé à apprendre à signer de mon nom, pensant qu'un jour elle deviendrait ma femme. C'est-à-dire que c'est au point où elle s'est rapprochée de ma mère, au point où elle s'est occupée de ma... Enfin, je l'ai pas vu venir, ça.
C'est un peu creepy quand même tout ça.
C'est ça. Donc je pense qu'elle était un peu, obsessionnelle.
Et du coup très déçue en mariage parce que pas du tout à la hauteur de ses attentes.
Oui, parce qu'elle a ma maison, elle a mon nom. Elle a la moitié de ce que je possède, elle a le pouvoir, elle a et c'est jamais ce qu'il lui faut parce que je ne lui donne jamais, mais je lui donne pas mon amour. C'est horrible. Enfin, ce que je dis, j'ai conscience que ça fait de moi un très 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 mauvais mari. C'est-à-dire que je l'ai privé de la seule chose qu'elle attendait. C'est-à-dire quand tu reçois de l'amour, tu le vois. Quand tu n'en reçois pas, tu le vois tout autant.
Bien sûr.
Donc si je lui donnais pas, elle le ressentait assez naturellement.
Surtout, tu donnais ce temps et cette, je mets des guillemets, amour à d'autres.
C'est ça. Et ça parce que là, j'avais recommencé à ressentir des choses.
Ouais. Et elle devait le voir, le sentir en tout cas, te voir épanoui, mais sans elle, quoi.
C'est ça. Et donc, j'avais
donc,
d'ailleurs...
Donc, tu montes en puissance avec cet homme.
Je monte en puissance avec cet homme. Je continue à écrire beaucoup au deuxième. Parce qu'on continue à avoir une vie intellectuelle.
Celui qui était en couple.
Ouais. Okay. Et des fois, on se fait... Alors, des fois, on a des... On discute sur WhatsApp et on efface. Deuxième recommandation à l'usage des maris infidèles. WhatsApp, ça s'éteint pas bien du tout. Ça s'efface pas bien du tout. Trouvez autre chose, les gars. Et non, mais ce
qu'après, je ne pas.
Je peux me demander comment j'ai pu être aussi con.
Donc, tu t'es fait griller.
Et donc, je me suis fait griller le jour du deuxième confinement.
Donc, le premier confinement, déjà, tu le passes...
Non, du premier confinement.
Ah, du premier confinement.
Le deuxième jour du premier confinement.
D'accord. Le 17 mars.
C'est ça. Le 17 mars, j'apprends qu'on est confiné.
Waouh.
J'appelle mes deux associés et on décide de mettre en sommeil le cabinet.
Ouais, bien sûr.
Tous vos abris.
Dans la prestation de service. Donc.
Vous allez tous télétravailler.
Ouais.
Bah, je vide mon bureau. Je m'assure que tous les gens ont un écran, un clavier. Enfin, je prends les mesures qu'on a pris à ce moment-là.
Télétravail, ouais.
Et je rentre chez moi avec mon ordi, et là je la trouve allongée sur un transat avec des lunettes de soleil à l'ombre, et je vois des choses qui passent à travers des lunettes de soleil.
C'est l'arme.
C'est le drame, et elle me dit tu vas t'asseoir, donc je m'assois, et là je me dis sa mère est morte. Et donc, je commence dans ma tête à visualiser le moment où je vais être dans l'empathie. Et là, elle me dit, ben voilà, on va divorcer. On va vendre la maison. T'es un salaud. Je vais le dire à tout le monde, à ton père, à ton frère, à ta sœur, à tes enfants, aux miens, à nos amis. T'as recommencé.
Waouh, la douche froide.
Et là, je me souviens lui avoir dit, eh ben, ok, est-ce qu'on peut en parler ce soir ? Parce que là, j'ai une boîte à fermer. J'ai pas mangé.
Wow.
Mais j'ai compris en gros ce qui se passait, quoi. Et je lui dis, et là, je me dis, c'est cataclysmique une deuxième fois. C'est une deuxième rupture où t'as trois lunes noires là, qui se présentent à toi.
Mm-mm.
Et je me dis, oui, mais c'est peut-être aussi une chance qui s'ouvre à moi de mettre une fin à un truc qui était sans fin. Et donc là, je passe, on s'est quand même confinés ensemble pendant 4 mois. Alors la maison était grande. Hein.
Donc vous avez chacun vos espaces ?
On a chacun nos
espaces. Vous aviez des enfants ?
Oui, on Comment avait elle... une enfant à la maison.
Ok, ça devait pas être ça.
Qui nous voyait déjà faire chambre à part.
D'accord, oui, donc ça n'a pas changé grand-chose à
donc
son quotidien.
Donc on décide de ne pas trop lui montrer.
Et de ne pas trop s'engueuler, ouais.
On ne s'engueule pas.
Vous avez réussi à en discuter ? Tu as réussi à t'exprimer ?
Très peu.
Tu avais envie de le faire ?
Oui. Oui, parce qu'elle me disait que j'étais malade, j'étais homo, j'étais un salaud, j'étais malade.
Tu lui as menti, tout ça.
Je lui avais menti, etc. Ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est pas bien. C'est...
Non, mais t'es pas là pour
te... Ce que j'ai fait, c'est indéfendable, mais en même temps, j'étais trop contente de pouvoir me barrer. Ce qui n'est pas moral. Et donc, et j'avais quand même sur le dos une entreprise qu'on venait de créer, il fallait la sauver, donc là, j'ai bossé comme un dingue.
Ouais.
Donc, on a sauvé la boîte. Ensuite, j'ai commencé à me dire, comment je peux faire ? Je vais vendre la maison. Qu'est-ce qui me reste si je rembourse les emprunts ? Qu'est-ce que je peux lui donner ? Enfin, je fais les comptes. Et là, en faisant les comptes, je m'aperçois que, ma foi, je peux descendre socialement d'un cran et que c'est une chance. Parce que j'avais une grande maison de bourgeois et ça me faisait chier. Parce que j'étais en train d'accoder, d'adopter tous les codes bourgeois. Tu sais, la grande maison avec la terrasse, le barbecue et machin. Et je commence à avoir les petits apparts plutôt...
Mais faut pas oublier, on rappelle que tu es de gauche avec des grandes valeurs, syndicats, tout ça. Hein, donc...
Et donc, je commence à me dire, mais je commence à aller sur le bon coin et à trouver des appartements qui me font rêver ou dans lesquels je me projette.
Mais on ne peut pas être riche et de gauche.
Objectivement, non. Ce qui fait que là où en ce moment je suis très à l'aise, ça challenge quand même mon idéal de gauche. Alors, okay. On peut être généreux. Ouais. On peut être pour le partage. Ou alors, il faudrait revenir sur qu'est-ce que c'est que d'être de gauche.
Oui, on peut être riche et avoir des valeurs de gauche. Par
alors, moi, je vais jusqu'à penser où, si j'allais jusqu'au bout, je serais, par exemple, pour le fait qu'à notre décès, tout ce qu'on possède retourne dans un pot commun.
Moi, je trouve ça assez... J'aime bien cette idée. Je trouve que l'héritage, au bout d'un moment, ça...
Et
c'est...
à ce moment-là, on n'asservirait pas notre vie à posséder et on vivrait notre vie à la vivre.
Ouais.
Là, de ce point de vue-là, je suis de gauche. Je serais même plutôt de gauche. Hein. Donc, je commence à me projeter dans des appartements. Je commence à caler à peu près... j'ai une copine avocate super sympa qui m'emmène voir... qui me connecte avec un notaire qui m'explique toutes les conneries qu'il ne faut pas faire. Donc, je commence à maîtriser mon divorce. La boîte est sauvée. Je commence à me projeter. On en discute, mais c'est compliqué. Et là, un appel génial, c'est que j'avais depuis quelque temps quelqu'un qui voulait être pote avec moi sur Facebook, mais moi, si je ne connais pas, je ne prends pas.
OK.
Qui voulait être pote avec...
À part dans le sauna.
C'est ça, qui voulait être pote avec... C'est ça. Qui voulait être pote avec moi sur tout un tas d'autres réseaux sociaux que je ne prenais pas. Mon téléphone sonne, je décroche, alors que c'est inconnu, normalement, je ne décroche pas. Et on me dit, dites donc, vous n'êtes pas simple à joindre. Hein. Et je dis, pardon, mais vous êtes qui? Et là, elle me dit, ça ne vous dérange pas que votre femme vous trompe avec mon mari?
Attends, pardon.
Et là, je lui dis, je me souviens lui avoir dit, je m'excuse d'avance, mais c'est pour moi une très, très bonne nouvelle.
Donc, c'est-à-dire que tu es en plein divorce? Tu es en train de construire ton divorce?
Oui.
Et ta deuxième femme qui t'a fait la misère?
Mais oui.
A un amant?
Oui.
Depuis combien de temps?
Ah bah depuis un paquet.
C'est-à-dire... Et ça, c'était son épouse qui t'appelait en mode...
Elle les avait chopés. Parce que...
Mais c'est un vaudeville.
Ceci est mon troisième étage pour les personnes qui vont, malgré eux, sur les réseaux sociaux. Il s'était fait choper avec sa tablette, il avait mal effacé le con.
Et donc la femme, elle a fait ce que la tienne a fait, c'est-à-dire qu'elle a regardé dans ses réseaux, ses machins, ses trucs.
C'est ça, et elle est tombée sur des conversations torrides.
Oh, de ta femme?
Mais oui.
Enfin, je sais pas, ça a dû être sidérant pour toi.
Alors, j'étais sidéré.
Ouais.
Après, j'ai commencé à regarder les dates et à me dire, ce stage qu'elle m'a demandé de lui offrir, mais en fait...
J'ai financé l'hôtel
dans lequel elle se faisait déglinguer à ma santé. Alors, j'ai pas d'amour propre. Ça m'a plus fait rire.
C'est-à-dire que le room service et tout, c'était pour toi.
C'est exactement ça.
C'est incroyable.
Donc ça m'a fait relativiser.
Wow.
Et donc là, à un moment donné, je suis allé la voir et je lui ai dit, dis donc, au fait, est-ce qu'on peut parler d'un tel?
Comment elle a réagi?
C'est là qu'elle jouait la femme malheureuse.
Oui.
En dessous de tout, même sa peau était devenue terne, etc.
Oui, bah,
et là, tout d'un coup,
je
l'ai vue mais revivre. Et elle m'a dit, ça n'a pas été si fréquent que ça. Elle a assumé, mais d'une force. Oh. En fait, elle m'a montré son vrai visage. Et donc là, ça a été vraiment un acte libératoire. Donc là, je me suis dit, c'est pas que j'ai bonne conscience, mais pas loin. Ma boîte va bien, j'ai des perspectives d'appartement, mon divorce, je vais le maîtriser. J'ai presque bonne conscience.
Mmh.
Et donc là, maintenant, je regarde devant. Hein, je regarde devant. Donc là, j'ai fait mes méga listes de caprices.
Ah, les fameuses. Donc là, on est à peu près, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Là.
On est à 4 ans.
Ouais, c'est ça, il y a 4 ans, 2020.
On est en 2020. Donc,
tu fais ta liste de caprices.
Ouais.
Il y a quoi dans ces caprices?
Je veux une pièce avec plein de canapes, un frigo avec qu'on puisse mettre plein de bière, un grand écran, une barre de son. Et je pourrais mater des vidéos ou organiser des orgies.
Ok, au choix, selon les disponibilités.
C'est ça. Je veux un appartement qui ressemble à une garçonnière pouvant accueillir des enfants, mais ressemblant surtout à une garçonnière.
Okay.
Je voulais même acheter une plaque, une nuit, pas plus.
Au moins, la messe est dite.
C'est ça. Et donc, je trouve cet appartement génial. Mais vraiment, je le visite et en le visitant, je me remonte la mâchoire pour pas avoir l'air d'être trop enthousiaste.
Ah ouais.
Parce qu'il faut négocier le prix derrière.
Bien sûr. Donc tu prends cet appart.
Je l'achète, je vis dedans. D'ailleurs, je l'ai toujours. Donc là, je commence. Alors dans mes autres caprices, je voulais une cafetière à dosettes sur ma table de nuit pour que la première chose que je chante, c'est l'odeur d'un café en me réveillant. Je voulais une cour intérieure dans laquelle on puisse mettre un petit spa.
Ok, on y revient toujours.
Bah oui, le sauna à la maison. Okay. Enfin, voilà, donc je fais toute ma liste. Okay. D'ailleurs, j'y suis allé jusqu'au bout.
Bravo. Faites votre petite liste de caprices.
Oui, c'est ça. Faites vos caprices.
Donc là, tu commences, ça y est, la vie...
Et là, je commence à me dire, j'ai acheté cet appartement. Je vais m'éclater. Et rien ne sera durable. Et à l'époque, je me dis, femme ou homme, pourquoi pas.
T'assumes dans ces deux sexualités? Ouais. Ou ouais, ça y est.
Ça y est, je suis sexué.
Pas envie de dire bisexuel.
Sexué.
Ok.
Ah, bi, parce qu'à un moment donné, il faut toujours rassurer les gens. Parce que vraiment, je suis...
Allez,
sexué.
Ok, c'est ok.
Pan, peut-être. Plutôt, ouais, la définition qui ressemblerait le plus, c'est pansexuel. Et il y a quand même une espèce de truc qui me travaille, c'est que je vais sur les applis gays. Je vais dans les saunas, enfin les saunas quand ils réouvrent, parce qu'il y a quand même
le Covid. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, bien sûr.
Et je m'inscris sur Mythique, comme un pur hétéro.
Ce que j'allais dire, c'est un choix, c'est un choix audacieux.
Je pense que je suis gémeaux, hein. Tu sais, la binarité.
C'était donc ça.
La binarité. Et là, je me fais chier. Mais je tombe sur des femmes qui me trouvent formidable alors qu'elles ne m'ont pas vu et que ce n'est pas vrai que je ne suis pas formidable. Je me trouve avec des femmes qui me trouvent très drôle, mais non, je suis pas drôle. Ou moi-même, je me fais pas rire quand je discute avec elles.
Elles projettent beaucoup, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, le film, je vous trouve très beau. Et donc là, je me fais. Ou alors, je tombe sur des femmes qui me font déjà chier alors qu'on n'est pas passé par l'épisode passion.
La violence de cette phrase.
Et là, vraiment, je passe un très mauvais moment, sauf une fois, avec une dame qui est plus âgée que moi. Mmh. Et on s'éclate comme des fous. Et on se promet d'aller se voir. Pas forcément de faire autre chose d'ailleurs. Parce qu'elle est très drôle, elle est pétillante. Et là, vraiment, on se marre bien. Et donc, je suis en train de me dire que je vais arrêter ces conneries, que ce site, c'est pas fait pour moi. Et là, je reçois un message. Dernier message. Avec un pseudo. Pardon, ma chérie. À la con. Et vraiment, pseudo à la con, message à la con. Et ça accroche. Il y a une petite musique, ouais, qui dit. Et on commence à s'échanger... Des petits textes, hein, mm-hmm, comme sur les applis, et ça devient intéressant. Et très rapidement, je lui dis, écoute, je suis devant les écrans toute la journée, sur mon portable toute la journée, tu veux pas qu'on s'appelle? Et là, on s'appelle, et là, dans l'oreille, une voix mais ultra captivante, avec quelqu'un qui est drôle, qui est brillant, mm-hmm, qui est intelligent, qui est toujours dans un... Elle est toujours entre deux. Hein, par exemple, une de ses phrases... c'était de me dire « je serai aimante et amante ». Elle est toujours dans ce paradoxe, mm-hmm, dans un délicieux chaud-froid. Et donc, on décide de se voir. Sauf que mon premier mariage, 14 ans, mon deuxième, 14, ça faisait 28 ans que je n'avais pas eu de dette avec une femme. Et je me mets à me chier dessus.
Pression de dingue.
Pression de dingue. Pardon, c'est pas radiophonique, ça.
Il a soufflé très fort pour faire genre je check mon haleine.
C'est ça. Hein. Donc je check mon haleine, je check mon caleçon, je check mes chaussettes. Enfin, je check trois fois
Elle est dans ta région.
Elle est dans ma région.
Super.
Elle vient chez moi. Et là, je suis comme un gros nul. Je lui sers un café. Tu veux pas me montrer ta chambre? Et là, mais alarme. Pourquoi? Mais j'ose pas la toucher et ça la fait pouffer de rire. C'est à un moment donné, je glisse mon doigt sur une épaule en genre,
hyper
allez, aide-moi. Hyper... Non mais je suis un très très... Alors avec les filles, je suis un dragueur épouvantable.
Mais avec les hommes, non?
Non, pas avec les hommes. Avec les hommes, je suis caché direct.
Ok.
Mais avec les filles, je suis...
T'as pas eu la même voix quand t'as dit ça, en plus, caché direct.
Ah, c'est ça, très je marrant. Peux être un peu plus coincé. Et donc du coup... On finit le café, je lui avais dit que j'avais une petite heure, parce que j'avais des visios, etc. Et je la raccompagne, et là, elle me roule une pelle, et elle me dit, et si on se revoyait? Et là, je manque de m'évanouir tellement je suis content, parce que j'ai très envie de la voir. Donc on décide de se revoir 2 jours après. Et donc là, c'est pareil, rebranle le bas de combat, je fais le repas, je fais le menu, je fais 3 fois le menu, je mets 5 fois la table. Enfin, on mange, on boit, c'est passionnant parce qu'on parle,
ouais.
C'est intelligent. C'est on monte dans ma chambre, on fait l'amour, c'est bon, on dort ensemble. On me l'a expliqué après, je sais pas si c'est vrai, mais je suis très en difficulté pour dormir avec quelqu'un, parce que je bouge, parce que je m'endors pas, et là son cœur m'apaise et je dors comme un bébé. Ce qu'on m'a dit, c'est que nos cœurs se sont mis à battre à l'unisson.
Ah, c'est beau.
Et Et là, je me dis, mais il est en train de se passer. Oh, et j'ai qu'une trouille. Enfin, non, j'ai deux trouilles. Et alors là, je me retrouve mais terrifié à dire, il faut que je lui dise.
Ah oui.
Et il
On
faut que.
On apprend de ses erreurs du passé.
Il faut que je lui dise, mais elle va me quitter si je lui dis. Donc encore un petit peu, monsieur le bourreau, encore un petit peu, mais il faut que je lui dise, parce que peut-être qu'elle pourrait ne pas me quitter. Donc je commence à être terrifié de ce qui m'arrive, je commence à être terrifié de l'amour que je ressens, commence à... Oh, et j'ai une copine qui, avec qui, mais chez qui je dors ce soir, avec qui j'arrête pas de textoter, mais elle a suivi l'épisode café, elle a suivi l'épisode on s'est roulé une pelle.
Elle te connaît bien ?
Ah, oui, oui. Après avoir fait l'amour, je lui fais un texto. On a niqué, c'était débrief. Trop bien.
Genre, la bonne copine.
La
quoi.
Bonne copine, tu débriefes de tout, quoi. Hein. Et là, je lui dis, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise. Le deuxième rendez-vous, parce qu'on décide de se revoir 2 jours après. Je m'étais préparé mentalement à lui dire, il faut que je te dise. Et à la limite, tu passes peut-être pas la soirée, mais au moins, je l'aurais fait. Et là, elle me regarde et elle me dit, toi, mon loulou, t'aimes pas que les femmes.
Ah oh. Avant que tu lui parles.
Ouais. Mais encore une fois, c'est les femmes qui font le job. Hein. C'est pour ça que j'aime les femmes.
Mais c'est incroyable, cette sensibilité qu'elle a eue et qu'elle a tout de suite captée.
Ouais, alors, elle me dit que j'ai quand même l'air un peu précieux. J'ai pas l'air complètement hétéro.
J'aime bien pourquoi tu fais un bras très vieux. C'est très bizarre.
Ça. C'est ça. Et
d'accord.
Donc...
Dans ton intimité, dans ta façon, ta gestuelle, tout ça, elle a ouais. senti qu'il y avait... Une féminité qu'elle aurait rapprochée.
Quand je définis s'il faut faire la lessive et le repas ou la vidange, elle fera plutôt la vidange de la voiture et moi la lessive et le repas.
Ouais, mais ça veut pas forcément ça n'incline pas forcément une sexualité.
Non, ou je suis un peu précieux, je m'occupe de moi.
Ouais.
Mais tu
penses,
c'est vraiment. Je prends soin de ma maison, je mets des fleurs.
Après, c'est une question ouverte. Moi, j'ai l'impression d'avoir pas mal de potes qui aiment les femmes très hétéros et très à l'aise avec ça, qui sont. Ce que tu décris, et moi je suis celle qui va faire la vidange, tu vois.
Ouais.
Je sais pas. Est-ce que.
Bon, en tout cas, elle le ressent.
Elle le ressent, en tout cas.
Elle le ressent. Elle m'explique après que c'est aussi son intention, c'était aussi que notre couple s'ouvre.
Ah oui,
direct. Que qu'on soit pas. Et donc, il fallait régler ça.
Elle aussi, elle a eu un premier mariage. Où...
Ouais.
Ouais, donc elle a aussi. D'accord.
Et donc, je lui dis. Oh je suis totalement bisexuel et j'ai des tas de mecs. J'en lâche, mais beaucoup trop, beaucoup plus que je vide.
Du coup, c'est parti, quoi.
J'ai évacué. Et donc, on essaye, on noue du coup un petit pacte et on commence à dire, est-ce qu'on se raconte ? Et donc, du coup, la question, c'est, on répond aux questions de l'autre.
Si l'autre en pose.
Si l'autre en pose. Et ça, c'est le top. C'est-à-dire que tu rentres pas chez toi dans l'arrogance de dire waouh, je viens de me taper Maurice, il est trop sympa. D'accord ? Tu rentres chez toi et tu dis bonjour ma chérie, as-tu passé une bonne journée ? Et si elle te dit t'es-tu tapé Maurice ? Tu dis absolument ma chérie, il est trop sympa. Okay. Mais c'est dans cet ordre-là que ça se présente. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est différent. Ah. Donc du coup, vous commencez une relation ensemble, amoureuse, socialement.
Alors, on a chacun nos deux maisons.
D'accord.
Nos enfants sont pas prêts. Moi, ma petite dernière, on sort du divorce, donc on
oui.
lui dit pas.
Oui.
Elle sort d'une rupture, elle a pas envie d'en parler à ses enfants. Et donc, on se voit quand on n'a pas nos enfants.
Très bien.
Donc, c'est plutôt un jour sur deux.
Donc, ça vous va et vous vivez pas ensemble.
On vit pas ensemble.
Et vous avez ouvert votre couple tout de suite en mode...
En principe.
En principe.
Ça. Et d'ailleurs...
Elle voit des femmes ou elle voit que des hommes ?
Que des hommes.
Que des hommes.
Au bout de 2 mois...
C'est peut-être voir les mêmes.
Mais on a fini par voir les mêmes.
Donc là, ça fait 4 ans ?
Ça fait 4 ans.
Okay.
Ça fait 4 ans. Et on est dans notre 4e année. Au bout de 2 mois, on se pose la question de... Au fait, t'as vu à l'extérieur ? Et moi, je lui ai dit, bah oui. Et là, c'est l'épreuve de vérité. Et donc, je lui raconte, j'ai vu un tel. Et je lui dis, et toi ? Et là, elle me dit, bah, moi aussi. Et c'est pour moi aussi... l'épreuve de vérité parce que...
La jalousie, tu veux dire ?
C'est... En fait, là-dessus, je suis très équivoque. C'est-à-dire que, bah, d'abord, vu mon activité, je n'ai pas voix au chapitre, c'est-à-dire je suis le dernier à pouvoir dire
donner
quelque chose.
Donner des leçons de morale.
C'est ça. Par contre, ça ne me laisse pas indifférent.
Évidemment, en
parce
plus,
que
tu l'aimes. Ça se sent que tu l'aimes vraiment.
Ça me terrifie.
Qu'elle aime un autre.
Ça m'oblige vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire, ça ne me donne pas le droit d'être médiocre.
Mais tu penses que ça, c'est sain entre vous deux ? Du coup, ça vous permet de vous renouveler, de proposer à l'autre, etc. Ouais. C'est la clé d'un couple qui fonctionne, ça ?
C'est notre clé à nous, parce que des fois, je me laisse un peu aller. Alors, des fois, je me laisse un peu aller dans la facilité. Mmh. Et puis, d'un coup, elle me dit, tiens, regarde, il m'a écrit, il a l'air pas mal, celui-là. Et alors là, tout de suite, tu fais...
Le pic d'orgueil.
Oh là, Bob.
Je vais faire mieux.
Je vais faire mieux.
Je ne vais pas parler de ta deuxième femme, parce qu'on sent que c'était autre chose. Mais avec ta première femme, si vous aviez ouvert le couple...
On en avait parlé. Et ce qui est très drôle, c'est que femme est une espèce de portrait craché de la première.
Physiquement ?
C'est comme si... Non, intellectuellement.
Ah.
Elles sont aussi brillantes, elles sont aussi drôles, elles sont aussi exigeantes.
C'est ce genre de femme avec qui tu es bien, quoi.
Ouais, finalement. Finalement, j'ai redoublé la première. Donc,
elle a l'air d'avoir beaucoup plus de fantaisie, ta compagne d'aujourd'hui.
Alors, c'est pareil, elle a énormément de fantaisie. Mm-hmm. Et en même temps, elle est très posée.
Ouais.
Elle est vraiment très, très posée. Encore une fois, notre vie repose sur une espèce de triptyque intellectuel, festif et sexuel. C'est-à-dire, faut aller voir un musée, un bon resto, et après aller dans un lieu de câlin.
Et vous les partagez, ça, ces lieux de câlin ?
Oui.
Club Libertin ?
Oui.
Et t'arrives à la voir faire du sexe avec d'autres hommes ?
Oui. Alors, c'est marrant, c'est que la voir faire du sexe avec un autre homme, j'arrive à éprouver du plaisir pour le plaisir qu'elle en éprouve. J'ai le plaisir de l'avoir à avoir du plaisir.
Du candolisme.
Ouais.
Et
en plus, elle s'occupe, dans ces cas-là, elle est mignonne avec moi. C'est-à-dire qu'elle me laisse jouer le coq. C'est-à-dire qu'elle me valorise face aux autres mecs, alors qu'ils sont plus grands, plus forts, plus costauds, etc. Donc, elle me laisse une place.
Ouais.
Et en même temps, après, elle profite.
Et elle peut te voir faire l'amour avec d'autres hommes ?
Oui. Ça l'a beaucoup intriguée au début. Parce que c'est sa première expérience.
C'est assez intriguant.
C'est ce qu'elle m'a dit. C'est-à-dire, je passe mon temps à casser les clichés. Hein. Alors, dans les clichés, c'est que tous les hommes sont à la fois versatiles. Donc, il y a des hommes actifs, des hommes passifs. Alors, moi, je suis versatile.
Oui.
Mais moi, je suis binaire surtout.
C'est ça.
Je suis binaire. Et donc, on a partagé certains de mes amants.
Ouais.
C'est génial. Et on voit de temps en temps un couple d'homo qui, ce jour-là, n'est pas homo.
D'accord, avec ta compagne.
Avec elle.
Vous avez des projets, là, de pratiques, de caprices, de choses à faire ensemble ?
On a des projets. On a des projets parce que le temps passant, on a gardé nos deux maisons. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire que quand l'un ou l'autre a besoin de souffler, il se replie sur sa maison. Mais ça peut être les deux, hein. Ça peut être, écoute, ce soir, j'ai envie d'être chez moi. Ensuite, le fait qu'on se reçoive l'un ou l'autre, on se courtise en permanence.
Bien sûr.
Elle est chez moi, elle est mon invitée, je fais son linge, ses repas
à
son rythme.
C'est pas une vie à deux, c'est tu la reçois chez toi.
Je la reçois chez moi et elle me reçoit chez elle.
Bien sûr.
Et donc...
Oui, c'est pas pareil.
Ça, c'est pas pareil.
Oui, t'as pas les habitudes, le quotidien, c'est pas pareil, ouais.
On n'a pas fait d'enfant ensemble. C'est pas parce qu'on s'entraîne intensément qu'on va en refaire un.
Mais donc... non, mais je pense là, vous avez bien donné tous les deux.
Donc on n'a pas, voilà. Et donc on n'a pas la pression d'élever un enfant ensemble.
Aussi.
Chacun élève ses enfants. Je connais ses enfants. Des fois, ça clash entre elle et ses enfants. C'est pas mon sujet.
Ouais. Et inversement.
Et inversement. Par contre, on se dit que un jour, ce serait peut-être bien qu'on trouve un foyer commun. Donc on a ce projet de se chercher.
Oui, c'est ce dont tu me parlais. Vous avez à terme peut-être un projet. Et donc, qu'est-ce que vous souhaitez et quelles sont tes envies, toi, à venir, là ?
Alors, dans mes envies à venir, je pense que aujourd'hui, j'espère que je vais encore m'amuser quelque temps et qu'après, il faudra qu'on ait un bien vieillir ensemble. Pas forcément... en étant très sage.
Hein. Personne ne croit que tu vas être sage, ne t'inquiète pas.
C'est-à-dire qu'on a vu quand même des phénomènes à Agde où il n'y a pas d'âge.
Tu fais partie de la team naturista Agde, toi.
Oui.
Ces gens m'intriguent aussi. Hein.
Oh, c'est fabuleux.
Ouais, bien sûr.
Tu aimes le chocolat, mais ce jour-là, on t'invite dans le magasin de chocolat.
T'as pas peur d'indigestion ?
Ah non, parce que c'est...
C'est du chocolat de qualité ou pas ?
Alors,
c'est ça, maman.
Tu sais que c'est dans le libertinage qu'il y a les gens les plus tolérants.
Intolérants,
les plus
pas.
Drôles,
ouais.
Les plus, et du coup on y trouve beaucoup d'amusement.
D'accord.
Alors attention, on fait pas la baie des cochons.
C'est enfin, ça, hein, la baie des cochons. Alors pour ceux qui savent pas, c'est, si tu me dis si je me trompe, mais c'est une partie de la plage à Agde où effectivement qui est donc très connue pour être un grand, le plus grand camp naturiste de France. Et la baie des cochons, c'est un peu l'orgie à ciel ouvert.
Ouais, c'est même malsain.
C'est
même...
glauquissime quand
c'est
même.
C'est glauquissime. Ouais. Non, nous on va dans un hôtel sur lequel il y a une, en extérieur une quarantaine de lits, donc une quarantaine de couples. Et tout le monde fait l'amour, chacun son tour, de chacun de son côté. Des fois, les couples vont se retrouver à deux, mais c'est souvent un peu chacun de son côté. En fait, c'est une espèce de communauté qui fait l'amour à ciel ouvert, les uns, sans gêne.
Okay. Et tous les âges.
Tous les âges. Il y a des clubs comme ça où les gens sont dans une grande salle et tout le monde fait l'amour. Okay. Et c'est beau. C'est esthétique, c'est charmant.
C'est une chorégraphie.
C'est, oui, il y a une espèce de. C'est très propre, donc ça sent bon. Il y a des endroits où on va danser.
Alors,
moi, je me suis retrouvé le plaisir d'aller passer la nuit, aller danser avec ma chérie, ce que je n'avais jamais fait. Donc, c'est des boîtes de techno. C'est des boîtes.
Si vous voyez Arnaud, vous ne pouvez pas croire deux secondes ce qu'il vous raconte. Dans le look, dans l'apparence.
C'est ça. Et ça nous. Ça même. Ça m'éclate. Et puis en plus, on va dans une boîte techno hétéro et dans une boîte techno homo. En fait, on fréquente les deux boîtes.
Oui, vous avez vos petites habitudes
on
maintenant.
On a nos petites
bien
habitudes,
sûr,
c'est
sûr.
Ça. Et puis à 2-3 heures du matin, donc on a bien, bien fait toutes nos petites affaires, je vais la coucher. Puis là, il y a une boîte qui s'appelle le cul à casser.
C'est assez équivoque.
C'est très clair même. Et là, je vais m'amuser. Puis quand je reviens, elle me dit « Alors, mon chéri, t'as passé une bonne fin de soirée ?» Okay. Je lui dis « Mais oui, bon dodo. » Et puis le lendemain, on recommence.
Vous avez la santé quand même, tous les deux. Hein.
C'est ça, ça fatigue un peu.
Ah bah, tu m'étonnes.
Mais la carte bleue cède plus vite que la fatigue.
Donc, ah bah, j'imagine qu'au bout d'un moment, les boîtes, les têtes, ça doit être...
Mais c'est notre rayon de soleil. C'est notre rayon de soleil. Donc voilà, on se souhaite d'avoir encore des moments comme ça. Parce que c'est vraiment des moments que j'aime beaucoup. On souhaite de bien vieillir. Je souhaite d'avoir encore une vie intellectuelle longue avec cette femme. Mm-hmm. Alors, c'est quelqu'un qui est très, très sur la réserve. C'est-à-dire que...
On ne pourrait pas le croire comme ça.
Non, mais question sentiment. Hein. C'est-à-dire que moi, je lui ai avoué dès le début que je l'aimais. Et je lui avoue tous les jours que je l'aime. Il y a très peu de jours qui passent sans que je lui... Parce que je l'aime. Et vraiment, je crois que c'est... Alors, c'est terrible... Je crois que c'est la femme que je crois que j'ai jamais aimé une femme comme ça. Et qu'est-ce que j'ai pu la, qu'est-ce que je peux la tromper par contre.
Tu la trompes pas tellement.
Mais
je
la trompe pas tellement.
Donc,
voilà, c'est ça.
Tromper, c'est quand l'autre ne sait pas.
Ça, ben voilà. Alors, qu'est-ce que je suis infidèle. Voilà. Oui, qu'est-ce que je vois d'autres personnes, mais qu'est-ce que je l'aime. Vraiment, je.
C'est pas incompatible finalement.
Voilà. C'est la personne. Vraiment, je.
Tu pourrais être polyamoureux, toi.
Oui, parce que les gens que tu vois régulièrement, parce qu'il y a trois sortes de rencontres. Il y a la rencontre une fois, Kleenex. Ça peut être très bien. Hein.
Bien sûr.
Ça peut être très, 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 très bien. Mais c'est Kleenex.
Ok. Jetable, quoi.
Il y a la rencontre, on se voit plusieurs fois. Et après, il y a le sex friend. Et le sex friend, t'as pas que du sexe. T'as une espèce
une
de relation.
Quand même qui se met en place.
Et franchement, la frontière entre l'amour... Et l'amitié...
Cette relation, elle s'éténue. Ouais, je suis d'accord.
C'est très...
Surtout quand on est sexué comme toi.
C'est ça.
On met pas de frontières.
C'est ça. Et j'ai quelques personnes un peu fidèles depuis que je suis libre d'en avoir. Mmh. Et voilà. Et des fois, il y a des moments qui sont très charnels, qui
dépassent juste le sexe, quoi.
C'est ça. Ouf. Après, on rentre chacun chez nous.
Ok. Et tu retrouves ton amoureuse.
Et je retrouve mon amoureuse.
Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux auditeurs et auditrices, Arnaud, notamment peut-être aux auditeurs qui se retrouvent dans tes mots de début d'entretien ?
Alors le conseil, je ferai d'abord référence à un des épisodes qui est mon favori de tous les favoris, c'est « J'ai mis du temps à me définir ». C'est un des premiers. Et c'est en fait quand j'ai entendu ça, je me suis dit oh, « Mais c'est moi, j'ai mis du temps à me définir ». Et je dirais « J'ai mis du temps à me définir et à m'accepter ». C'est-à-dire si je mets une brique de plus. Et c'est de dire bah, si à un moment donné vous vivez ces trucs étranges, d'avoir ces envies qui sont étranges, bah, faut prendre le temps d'oser s'accepter comme on est.
Et comment on fait pour s'accepter comme on est ? On se regarde en face ?
Alors là, si j'avais un mode d'emploi, j'aurais gagné 15 ans. Je pense qu'il faut trouver des gens avec qui en parler, quelques personnes à qui j'ai pu m'en ouvrir et qui m'ont dit bah ouais, bah c'est pas grave. Hein. J'ai mon meilleur ami, quand je lui ai avoué tout tremblotant, persuadé qu'il allait me jeter, que je serais
J'imagine.
Plus. Il m'a dit mais t'es mon pote à la compote.
J'adore cette phrase.
Et du coup, il m'a dit mais je t'aime tel que t'es.
C'était l'épisode avec William, je crois. Oui. Ouais. Très bel épisode aussi.
C'est mon préféré. Je crois que je l'ai écouté peut-être 20 fois.
Waouh.
Oui, parce que quand je suis sur la route et que j'ai quelques heures de route parce que j'ai un déplacement, mais j'ai
des vrais déplacements cette fois. Hein.
Souvent, mon hôtel est près soit d'un sauna, soit d'un lieu de footing. Quand c'est les deux, c'est parfait.
On ne le changera pas.
C'est ça.
Tu écoutes quand tu fais de la route?
Oui, je les écoute et il y a très peu. Et vraiment, il y en a beaucoup qu'on peut réécouter plusieurs fois. Il y en a que j'ai pas pu réécouter plusieurs fois parce qu'ils étaient trop
difficiles.
Ouais, difficiles. Enfin, quand je dis difficiles, ils étaient bien. Hein.
Ouais, bien sûr.
C'est parce qu'ils étaient difficiles qu'ils étaient bien d'ailleurs.
Mais parfois, il y en a qui prennent au ventre.
Il y en a qui prennent au ventre. Ouais. En fait, dès que ça touche à, moi, je deviens hystérique quand ça parle de mort ou quand
d'agression, choses comme ça.
Ouais.
C'est difficile, ouais.
Je les écoute, mais je ne peux pas les réécouter une deuxième fois.
C'est vrai que c'est important. Moi, j'essaie maximum, en tout cas, de faire des épisodes qu'il y ait un panaché de ces histoires-là qui existent, mais aussi de feel good et que ça fait du bien, parce qu'effectivement, sinon, c'est un peu plombant. Mais je comprends. Je vais te laisser conclure cet entretien, Arnaud.
Eh bien, n'hésitez pas à tout explorer.
Je pense qu'on a compris que toi, t'hésitais pas.
Et vivez très bien avec.
Ouais. Vivez très bien avec.
Ouais.
Super. Merci. Je voulais vous partager un petit message que m'a laissé Arnaud le lendemain de notre enregistrement. Bonjour Anor, je souhaite dédier mon petit bavardage à tous ceux que j'aime, les femmes plus fortes et courageuses que nous et avec lesquelles je suis loin d'avoir été à la hauteur, les hommes que je croise pour une heure ou depuis plusieurs années et qui m'apportent aussi leur part de sensualité délicate et virile. Mes amis et ma famille qui me prennent telle que je suis, ma maman qui a fait le choix de partir et ma chérie que j'aime de toutes mes forces. Savoir qui l'on est, ce que l'on est et le sens de la vie, et cela inclut les sorties de route. Vive vous, je vous embrasse. Voilà, merci à Arnaud pour ces jolis mots que je voulais vous partager et merci à lui d'être venu de sa région. C'est toujours je suis toujours très pleine de gratitude quand je sais que les invités viennent et prennent vraiment ce moment comme quelque chose de très important dans leur vie. Merci à vous pour votre fidélité et votre soutien. N'hésitez pas à transformer ce soutien sur les applis Apple Podcast, Spotify, où vous écoutez les épisodes, et venir nous voir sur Discord où la communauté grandit de jour en jour et on échange. C'est super intéressant. Donc n'hésitez pas. Merci à vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.